Allô. Plug du début. Premièrement, je répète, on a acheté trop de t-shirts de coupe ouverte. Achetez-nous, s'il vous plaît, des t-shirts de coupe ouverte. C'est de jolis t-shirts, doux, sexy, cochons, très érotiques, qui ont été faits dans des belles conditions. C'est des bons, c'est des beaux chandails. Il n'y a personne dans tout le processus qui s'est fait exploiter. Avec une arme dans la nuque. Il n'y a personne qui est obligé de faire « Ah! Ah! Ma vie, c'est terrible! Ah! » C'est pas arrivé. Il coûte un peu plus cher, mais il n'y a personne qui pleure. Mis à part moi, parce qu'on a bien trop acheté. Je suis la seule personne qui pleure. Mais ça, je pleure à tout. Je pleure à rien. Fait qu'on s'en fout. Là, c'est juste mon nouveau prétexte pour pleurer. Sentez-vous pas mal. Ou sentez-vous mal pour acheter des t-shirts? Hey, si c'est une technique de vente, je m'en fous. Je m'en fous. J'en ai aucune intégrité. Je veux vendre les t-shirts. C'est sur le site de Tamello. C'est eux qui s'occupent de la livraison. Alors, vous êtes assurés qu'ils vont se retrouver à votre porte, en bon état. Let's go. Et aussi, ces t-shirts-là, c'est une bonne manière de nous encourager. C'est une bonne manière de faire en sorte que le podcast continue. Ça sonne un peu comme une menace. Ça sonne un peu comme « Tu n'as pas de t-shirt, tu n'auras plus de podcast! » Puis c'est pas vrai. Je regrette ce que je viens de dire. Mais ça nous encourage pour vrai. Je suis le pire vendeur. Je suis un peu le pire vendeur. Aujourd'hui, le podcast, c'est une présentation de mon ami Michael Archambault. Michael Archambault, avec qui j'ai fait l'école de l'humour. C'est un auteur. C'était un auteur plus jeune que moi. Je le mentionne parce que moi, je pensais rentrer à l'école de l'humour en disant « Yo, c'est moi le plus jeune. » Et Michael était plus jeune que moi et plus doué que moi. Ça me faisait énormément de peine. Je me suis attaché à Michael. Et Michael m'a appris beaucoup de choses à l'école de l'humour. C'est Michael qui m'a appris la rigueur. Parce que Michael avait toujours des excellents devoirs, super drôles. Et ce que j'ai compris assez rapidement, c'est pourquoi Michael était aussi drôle. C'est parce qu'il mettait beaucoup de temps là-dessus, beaucoup de concentration. Il suait plus que moi. Il n'était pas fondamentalement plus drôle que moi, mais il travaillait mieux, il réfléchissait mieux. Alors, c'est un modèle pour moi. C'est un modèle de « Ah, si je prends le temps, si je m'applique, je peux être plus drôle, je peux mieux m'exprimer. » Et c'était une superbe leçon pour moi. C'était une superbe leçon d'humilité. J'ai compris que l'humour, c'était un art qu'on travaille. C'était pas quelque chose de magique. Faut travailler pour être drôle, faut travailler pour connecter avec des inconnus, faut travailler pour avoir une bonne idée et la mettre à terme. Parce que des flashs, on en a tous. Mais entre avoir une idée, une étincelle dans ta douche et un truc concret qui fait rire des gens, c'est un long processus. Ça prend de la rigueur. Michael Archambault m'a appris ça. Alors voilà. Michael Archambault, il a écrit plein de trucs. Il a aussi écrit des romans. Il écrit premièrement Rage de sucre, qui est un roman comique qui s'inspire un peu de sa vie, parce que Michael, c'est une vraie affaire, il adore le sucre, puis des fois, il vire un peu fou avec ça. C'était aussi vrai à l'école de l'humour. Il a écrit un roman. Il est parti ça pour écrire un roman. Super original comme idée, super drôle, Rage de sucre. Et dernièrement, il a écrit La mort des corbeaux, qui est un thriller. C'est pas censé être comique, c'est un thriller bien ficelé, bien réfléchi, sérieux. Alors, let's go. Tu veux rire, Rage de sucre, thriller, La mort des corbeaux, ou si tu peux mélanger les deux. Ça encourage un gars que j'aime beaucoup. Ça encourage un gars que j'admire. Ça encourage un gars qui... J'ai beaucoup joué au tennis, fait que c'est grâce à lui si, dans ma vingtaine, j'étais mince. J'étais pas mince, mais j'étais moins gros qu'aujourd'hui. Fait que merci, Michael. C'est peut-être un peu grâce à toi si j'ai une sexualité dans ma vingtaine. Grâce à ta force et grâce à nos matchs de tennis, j'étais présentable, tout nu. Et ça joue. Alors merci. Merci de m'avoir donné autant d'orgasmes. Et moi, en retour, j'encourage les gens qui m'apprécient à aller acheter La Rage de sucre et L'amour le corbeau. Voilà, ça c'est le podcast. Mon invité, Kim Lévesque-Lizotte. Une femme qui fait partie du 3%. Je répète, le 3%, c'est le 3% de femmes qui écoutent le podcast. Le 3%, je le rappelle, c'est Marilyn Jonca, ma blonde et Kim Lizotte. Alors, yeah! 3%. Je suis très excité. Kim Lévesque-Lizotte, je l'admire beaucoup. Elle me fait rire. Je la trouve le fun, elle est cool. Je me tais et je laisse toute la place à Kim. Bon podcast. Oh, ouais.
3%.
Le tiers de mon 3%.
Oui, mais check bien.
Qui écoute le podcast.
Oui, yeah! Mais je vais te partager, puis là, il va y avoir comme 7-8 autres filles qui vont t'écouter. Là.
Yeah!
Oh yeah! Je suis juste ici pour ça. C'est mon seul but. Faire monter ta cote de femmes qui t'écoutent.
Il fait plaisir aux incels.
Ça n'a pas changé un petit peu avec les oliviers. Je sais comme, tu sais, c'est peut-être un... Ça reach un
ou
petit peu.
Ou ça a changé, mais c'est plate, c'est la vraie affaire.
Ouais.
C'est plate.
Ah, dis-le pas. Non, non.
J'appuie aussi. Encore
tout, on dit, on salue les incels.
On les salue.
On les salue.
Salut!
Ils vont m'haïr, ils vont dire que patati patata, c'est ça.
Non, ils vont juste dire des commentaires.
Non, mais j'avais des bons commentaires. Parce que quand je suis allée à couple ouvert, là, tu sais, moi, je regarde jamais d'habitude les commentaires, mm-hmm. mais là, vite, j'ai juste fait « Ah! » Puis je suis comme « Ah! Vos fans, ils sont gentils. »
Ils sont très doux.
Vos fans sont doux et gentils.
Ils sont très, très délicats.
Ouais.
Parce que je les ceux qui sont fous, je les mentionne.
Ah oui, puis là, ils veulent pas se faire shamer.
Ils veulent pas ça.
Donc là, ils font plus.
Ça me fait rire, moi, quand ceux qui disent « Ah, les commentaires, on peut rien faire! » On peut rien faire!
On peut plus rien dire!
Non, on peut. On peut dire, c'est très
bizarre. On peut plus shamer personne.
On peut dire, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement bizarre.
Oui.
Pourquoi tu dis ça? Pourquoi c'est en majuscule? Pourquoi ta photo, c'est la mort avec une fourche?
Ah oui, oui.
Ouais.
Oui, ça part mal dans la vie.
Ça part très mal.
Ça part très mal.
Kim.
Thomas.
T'es... Parle-moi de... J'ai un truc que je sais chez toi qui est en... Ça a rapport avec mon père, fait qu'on va en parler.
Wow!
Ta mère, elle t'a eu dans quelle institution? Où ta mère a passé sa grossesse?
C'est donc bien... Oh, pourquoi on a parlé de ça, donc?
Parce qu'on parle très bien dans toi comme ça.
Mais ça, c'est très... Ben, tu vois, admettons que tu m'avais posé la première question, là, t'es née où puis en quelle année? Moi, je suis née à Québec en 83, mais je venais pas de Québec à ce moment-là, mais ma mère était à Québec, puis elle a accouché à Québec parce qu'elle allait à la Clairière. Parce que ma mère a eu à 16 ans. Puis là, mais à chaque fois... je vais faire une joke déplacée, mais... À chaque fois que tu dis ça dans la vie, mes parents, c'était deux adolescents qui se sont rencontrés, qui sont tombés en amour puis qui ont eu des enfants. Mais ma mère était là à la Clairière parce que c'était une espèce d'institution pour que les jeunes filles mères puissent finir leur secondaire.
Exactement.
Tout en accouchant.
Exactement.
Mais c'est quoi le rapport avec ton père?
Mon père travaillait dans la même institution à Montréal qui s'appelait Rosalie Jeté.
Oui.
Et c'est là qu'a rencontré ma mère.
Ah! Ouais. Ben voyons!
Bon, les deux travaillaient dans cette institution.
Ouais.
Ils sont tombés en amour. Mon père a quitté parce qu'il était, c'était un patron. Puis c'est un conflit d'intérêts. Et c'est là que...
Je sais pourquoi qu'on parlait de ça, toi puis moi. C'est à cause du téléroman Toute la vie.
Je te jure que non.
Non, non,
ça fait comme 4 ans. Ça fait genre 4 ans qu'on s'est caché ça.
Quand j'ai parlé de ça, mais parce que, tu sais, ça a été... En tout cas, parce que pour ma mère, ça a vraiment bien été. Puis c'est un endroit...
C'est une belle institution.
C'est une très bonne institution. Ça s'appelait La Clairière. Il y avait une madame... Madame
dans...
Petitpas, je pense, qui s'occupait de ça. Puis tu sais, ma mère en garde des très beaux souvenirs. Fait que c'est pour ça qu'elle aime pas ce téléroman-là, parce qu'elle fait comme... Hey, c'est tellement pas de même que je l'ai vécu. Puis j'en garde tellement des grands moments de solidarité féminine, puis d'amitié, puis de... Puis, vu que c'est un téléroman où on voit beaucoup de panique, puis d'intervenants paniqués, elle fait comme... Mais les intervenants étaient tous sauf paniqués, puis étaient juste comme... Ça va aller, tu vas ressentir ça, tu vas vivre ça, puis c'était juste un truc pour qu'elle puisse finir ses études. Mais l'affaire, c'est que quand tu dis ça, dans la vie, mes parents, ma mère avait 16 ans, mon père, 20... Ben, les gens, ils se font tout de suite une espèce de...
Ils étaient sur la cocaïne.
Ah oui, mais vraiment pas. Parce que moi, je suis un enfant des années 80, puis je suis une petite fille du bas du fleuve. Mes deux parents, c'était des adolescents des deux villages, un à côté de l'autre. Mon père venait de Rivière-Ouelle, ma mère venait de Saint-Pacôme. C'est dans Kamouraska, là, c'est dans le bas du fleuve. Puis ils se sont rencontrés à 14-18 ans. Selon la légende, ma mère a fait attendre mon père un an avant de faire l'amour. Fait que moi, je dois être donc, par statistiquement, le résultat de leur 20e...
Je vais être plate, là, parce que c'est la sexualité de tes parents.
Oui.
Mais tous ceux qui disent ça, on attend un an de faire l'amour, ils ont tout fait, à part la pénétration vaginale.
Ah oui, je le sais!
Ils disent tout! Ah, oh, on a attendu un an! Mais tu sais, on a fait de l'anal, puis je l'ai
sucé,
puis on s'est masturbé.
Mais
on n'a pas fait de l'amour!
Mais je pensais à ça cette semaine, parce que tu parlais de ça dans un podcast, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens. Mettons, quand on me demande, c'est quand la première fois tu as fait l'amour, j'ai toujours à 15 ans, patati patata, je me rappelle, c'était le 23 novembre. Quand ça collait tellement. C'était le 23 novembre de mai 15 ans.
Moi, c'était le 5 novembre. On est le 2 novembre.
Écoute, le novembre, là,
c'est pas ça. Non, c'est la première fois que je me suis masturbé, excuse-moi.
Il commence à faire noir. Faut faire, on fait des choses sexuelles.
Merci.
Mais je me suis dit, Christy, c'est la première fois que j'ai vécu une pénétration. Mais si j'avais fait des choses avant ça. Donc, c'est pas nécessairement ma vraie première relation sexuelle, parce que avant ça, tu sais, j'avais déjà comme Frenchie tout nu en faisant des affaires. Donc, C'est comme si on se disait, la première relation sexuelle quand t'es une femme, c'est quand il y a un pénis dans ton vagin.
Mais nous aussi.
Alors que ça, c'est pas ça. Puis là, je me suis dit, voyons, c'est quoi, mettons, ma
première. Moi, je me disais, moi, longtemps, je me suis dit, ah, je suis vierge. Ah oui? J'ai couché avec une fille, genre à 18-19 ans. Ouais, mais j'ai passé un an à tout le temps doigter une fille la fin de semaine.
C'est ça.
C'est quand même sexuel.
Mais tu vois, ça, je trouve que c'est mieux ça. Ah oui, c'est vraiment mieux ça. Je pense que l'exploration sexuelle, même c'est si ça commence jeune, c'est tellement mieux que... C'est beaucoup plus traumatisant, mettons, mes amis qui me disent « C'est rien passé, j'ai rien fait, j'ai pas eu de préliminaire, je me suis jamais... pas de cuni, pas de pénétration de doigts. » Puis que du jour au lendemain, bang, t'es tout nu avec un gars, puis tu te fais pénétrer. Pow! C'est comme,
tiens,
ouais, ça doit fesser.
J'en doute pas.
Ça doit être intense.
Et aussi, mentionnons-le, le point de vue du gars, c'est tough pénétrer. C'est une expérience.
Oui.
Moi, ça m'a pris au moins un an comprendre l'angle.
Ben oui.
C'était
ben,
très...
Ah, l'angle. Ben oui, mais quand t'étais une fille, hey, je me... Ben, moi, je suis chanceuse parce que, tu sais, moi, je voulais... Hey, on est déjà rendu, on vient de sauter 15 ans. Ma naissance... Mais donc, ah,
c'est pour les incels!
C'est pour les incels. Fait que ma naissance jusqu'à ma première relation sexuelle, mais tu sais, au moins ma vraie exploration sexuelle, comme super saine que j'ai eue, c'est parce qu'à 16 ans, je me suis fait un petit chum vraiment fin, qui était moins expérimenté que moi sexuellement. On le salue. Mais tu sais, il était vraiment moins, là. Mais, fait que tu sais, il y avait beaucoup d'amour, puis de respect, puis un espèce de. J'étais tellement à l'aise avec lui, je peux faire. Oh non, 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 ça, je veux pas. Puis, ah oui, finalement, ça, je. Ça, on l'essaye. Oh, finalement, ça, je veux tout le temps ça. Mon Dieu, c'est dommage le fun. Puis, tu sais, ça a été. Fait que tu sais, ça a été comme mes premiers. Ça a été vraiment sain. Je pense. Avant ça, il y avait eu des affaires un peu comme un peu bizarres là, d'exploration. Tu fais comme ah, oh, c'était peut-être lui.
On l'a exploré, on ne retournera pas.
Ce gars-là était peut-être trop vieux pour moi à ce moment-là. Là. Puis tu sais, puis moi, sais-tu quoi? À peu près, c'est à quel âge j'avais là? Un moment donné, vers 15 ans, je me suis mis à pogner avec les gars plus vieux parce que vous êtes tous des pédophiles en ce moment.
Ben moi aussi, voici mais... ce que j'en pense et je veux avoir ton opinion parce que tu es extrêmement concerné.
OK.
Je peux comprendre une jeune femme de 15 ans qui est beaucoup plus mature physiquement et sexuellement et mentalement qu'un garçon de 15 ans d'être attiré par des hommes pour deux raisons. Ce que je viens de nommer, la maturité physique, sexuelle et émotionnelle.
Ouais.
Et aussi, te faire prendre vaut mieux par quelqu'un qui sait ce qu'il fait qu'un gars de 15 ans qui sait pas ce qu'il fait. Alors, je trouve ça un peu dommage quand on se dit « Ah ben là, la fille... » Sauf qu'un gars de 21 ans, je peux comprendre pourquoi elle est bien
là-dedans. Je pense que c'est même prouvé scientifiquement, hors de tout doute, que les femmes sont plus matures que les hommes jusqu'à... Il y a un 49. Chiffre, là. Jusqu'à 49. Mais tu sais, mais c'est sûr qu'à 15 ans, les gars sont encore bébés. Mm-hmm. Puis toi, t'es comme, tu deviens comme une femme. Ben mais tu sais, même à 10 ans, là, quand t'as 10 ans puis que t'es une femme, mais t'es une fille... Il y a vraiment un moment où tu fais comme « Non, maman, là, on enlève les jouets de ma chambre, enlève les Barbies, on enlève le rose. » Puis les petits gars, ils vont jouer longtemps au camion encore, puis ils sont pas rendus là. Mais nous, on a comme une... On devient vite des petites femmes.
Ben juste physiquement, moi, je trouve ça extrêmement difficile à aborder des filles de mon âge.
Oui, on veut rien savoir de vous autres.
Un, et deux, moi, j'étais vraiment un petit garçon et j'avais devant moi une femme. Moi, j'ai commencé à être à l'aise avec les femmes à l'âge de 18 ans, quand j'ai chillé avec des femmes un peu plus vieilles. Quand j'ai eu ma maturité sexuelle et physique, mais à 15 ans, t'avais l'impression d'être « Hello, femme qui... » Pour ça, à 15 ans, déjà, tu pouvais tomber enceinte. Nous, on vient d'apprendre à se masturber.
Des fois, on est quand même immature. Mais des fois, les filles, on est un peu immature. Puis des fois, on n'est pas prête vraiment. On est comme à la découverte de c'est quoi être en amour. Fait qu'on se met à tomber en amour avec des gars complètement inaccessibles. Mais tu sais, ça nous fait rêver longtemps. Puis, fait qu'on trippe sur des gars un peu plus vieux. On est en secondaire 3, tu trippes sur des gars secondaire 5. Mais à un moment donné, ça t'empêche. Ah, ben c'est de ça que je voulais parler. C'est qu'à 15 ans, je me suis mis à tripper sur des gars plus vieux. Mais j'étais pas prête à faire l'amour. Mm-hmm. Fait que là, je sortais avec genre un petit 2-3 semaines. Puis après, j'étais comme, faut qu'on se laisse, ça marche pas. Mais dans le fond, c'est juste que, non, là, je suis pas prête à faire le step un peu plus loin. Puis je sentais que c'est pas une relation égale à égale. Mais tu vois, si j'avais pas. C'est dur, là, de. Tu sais, je pense aux adolescentes en ce moment, là. C'est vraiment dur de faire la différence entre. est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai le goût? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que... Parce que tes hormones aussi sont dans le tapis quand t'es une fille. On parle tout le temps des gars que leurs hormones sont dans le tapis.
Les filles, c'est la même chose.
Mais quand t'es une jeune fille et que t'as pas eu de trauma puis que tes hormones sont de même puis t'es tout le temps en amour...
Ou que t'as eu des traumas. Je veux dire, t'as des traumas puis t'en as besoin quand même.
Oui, oui, oui. Puis on n'en parle pas souvent, ça, je pense. Tu sais, j'ai vu le film Charlotte a du fun dernièrement puis j'ai fait ah, ça fait du bien de voir des petites filles qui ont du désir. Ouais. Puis dans La déesse des mouches à feu aussi, c'est comme si, ben, à cause du contexte, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de violence envers les femmes, puis qu'il y a beaucoup de violence envers les filles, puis qu'on parle, puis il faut en parler, mais ça fait en sorte que la violence, des fois, prend le dessus dans le discours. Les dénonciations, juste fugueuses, le proxénétisme. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence, mais il faut se rappeler que quand il y a comme quelqu'un que si on était tous égaux à l'adolescence, quand t'es une fille qui n'a pas vécu de traumatisme, puis qui n'est pas exploitée, t'en as du désir, puis t'as le goût de frencher, t'as le goût de te faire toucher à l'infini.
Et aussi, il faut le mentionner,
oui.
À 14, 15, 16 ans, vous désirez des hommes.
Oui.
Et les garçons de 14, 15, 16 ans ne sont pas des hommes. Alors, ça vous met dans une situation embarrassante de « je veux un homme, mais c'est plus vieux, mais comment celui veut de moi? Oh, c'est bizarre! »
Oui, en fait, c'était ça la ligne. La ligne est mince entre... Je suis un peu plus mature que mon âge, fait que je peux aller vers des hommes plus vieux, mais il faut juste que dans le chapeau, là, faut pas que je pogne le plus vieux qui se dit « Haha, une petite fille vulnérable, je vais en profiter. »
Moi, je m'en souviens à 15 ans.
J'ai été chanceuse dans la pige du chapeau, je pense.
Tu sais, quand j'avais 15, 16 ans, puis j'avais des amies-filles que je désirais tellement, sortais avec des filles, des gars plutôt de 18, 19 ans, je faisais « Ah, OK. » Quand j'ai eu 18-19 ans, puis mes amis de 18-19 ans, d'un party, aimaient des filles de 16, je battrippais. J'étais, c'est vraiment bizarre, les gars. C'est vraiment bizarre.
Oui.
On est mature. Je sais pas si elle pas à mes yeux. Elle a vraiment l'air d'une enfant.
Oui.
Autant à 15 ans, je trouvais que les filles de 15 ans avaient l'air de femmes. À 18 ans, je trouvais qu'une fille de 15 ans a l'air de 15 ans.
Ah non, moi aussi, je confrontais souvent mes amis. J'avais beaucoup d'amis gars au secondaire, puis on se promenait dans le centre d'achat. Puis ils faisaient, check la fille, check la fille, check la fille. Puis j'étais comme, Chris, à 12 ans, à 13 ans, c'est quoi ton problème? Puis tu sais, je devais avoir 16, 17 ans. J'étais comme, arrête de regarder des petites filles de même. C'est comme.
Je comprends, je comprends tellement les femmes qui désirent les hommes plus vieux.
Oui.
Mais les hommes plus vieux qui désirent des femmes plus jeunes. Là, je suis mal à l'aise. Je dis pas que c'est une position morale défendable. Je peux pas la défendre. C'est juste une sensation.
Oui, mais c'est vraiment. C'est tellement touché. À chaque fois, j'en parle, puis j'en parle souvent avec mon chum de ça, parce qu'on parle de nos amis, puis tu sais, c'est tellement confrontant, parce que tu te dis, est-ce que vraiment, biologiquement, les hommes sont attirés vers des filles de 18-20 ans? Mais moi, mettons, dans mon cerveau, je me dis, si mon ami de 40 ans me présente sa blonde de 18 ans, j'ai un problème, 20 ans. Tu sais, ça existe des gars de 40 ans qui sortent avec des filles de 20 ans, là, j'en connais. Mm-hmm. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu cette conversation-là, puis je fais comme, on dirait que c'est souvent un truc que je me dis, ce gars-là à 20 ans, il pognait pas avec les filles de 20 ans. Puis que là, soudainement.
Non, c'est juste, je pense.
Ou il y a comme
la même chose.
Un arrêt de la maturité.
Je pense pas que c'est un arrêt de la maturité, vingtaine. C'est revivre ce fantasme-là.
Puis c'est comme là, je peux me le permettre. Là, je suis un homme accompli.
Un peu comme moi.
Je suis beau, j'ai une belle carrière, puis j'ai la confiance en moi. Maintenant, pour aller chercher ce que je veux. Puis c'est. Puis je veux pas shamer les hommes qui aiment les femmes plus jeunes. Il y a des femmes qui aiment les hommes plus jeunes, puis j'applaudis ça et je célèbre ça. Mais il y a vraiment quelque chose. Mais je trouve ça toujours louche. Fait comme, à quel point tu as besoin d'avoir un ascendant sur l'autre? Mais il y a des grandes histoires d'amour, là. Charlie Chaplin avec sa dernière femme, là, qui avait genre 50 ans de moins, puis en fait 8 bébés, puis ils se sont aimés. Puis il y en a des belles grandes histoires où l'âge.
Mais même toi,
lieu.
Tu le mentionnais plus tôt. Tes parents, sur papier, ça devrait être une histoire grotesque, dangereuse, mais non.
Dangereuse, ah non. Mais tu vois, retournons dans mon enfance. Mais
allons-y.
Tu vois, c'est un autre contexte parce que j'étais dans un petit village, puis je pense que la décision d'avoir cet enfant-là, qui est moi, c'était une décision presque familiale. Puis je suis vraiment une enfant, oui, j'étais un accident, c'est sûr, mais j'étais un enfant de l'amour. Tu sais, ma mère puis mon père, ils s'aimaient tellement. Tu sais, même quand je suis devenue ado, je demandais à ma mère des fois, j'étais comme, je comprends même pas pourquoi vous m'avez gardée. Puis ça la choquait. À chaque fois, j'étais comme, je comprends pas pourquoi vous m'avez gardée. C'est quoi, là, le processus? Êtes-vous malade? Puis tu sais, c'était comme, mais non, j'aimais ton père. Puis on en a parlé avec nos parents. Puis, fait que tu sais, moi, mettons, si je faisais une psychanalyse, c'est sûr que tout l'avant ma naissance, est incroyable. Puis je pense qu'on commence à m'en parler là, là. Il y a comme une espèce de... Tu sais, ma tante, des fois, m'en parle, ou ma mère, ou dans des parties, c'est comme, soudainement... On m'a jamais parlé dans mon enfance de l'avant, là. Ma mère... mon père qui sort de la pharmacie, parce que dans ce temps-là, il faut aller à la pharmacie.
Pour le test de grossesse. Oh, c'était wow.
Oui, il fallait comme t'aller voir le pharmacien. Le résultat, ma grand-mère le su parce que ma mère, elle avait un rendez-vous chez l'échographie, puis elle n'est pas allée. Puis c'est ma grand-mère qui a pris le téléphone, puis elle a comme compris que ma mère était enceinte. Mon père qui a écrit une lettre à sa mère en disant si vous n'êtes pas d'accord, vous ne me reverrez plus jamais. Tu sais?
C'est romanesque!
Fait que là, puis l'espèce de « on va vous aider, on va le prendre, venez déménager à la maison », il y a comme une espèce de... Puis quand je suis née, je pense que je suis jamais à la garderie de ma vie. Là. Je pense qu'il y avait comme... J'avais plein de monde pour s'occuper de moi. J'avais mes parents, mes grands-parents, mon autre set de grands-parents, des ma tante, des mon oncle. J'étais comme le premier enfant de la famille... Sauf que j'avais genre une cousine éloignée, une cousine à Sherbrooke, mais tu sais, c'était en campagne, le bébé il est là, puis même, on me dit maintenant que mon grand-père avait dit à ma mère, c'est toi qui vas s'en occuper, puis compte pas sur moi. Puis elle dit, quand t'es née, il t'a pris, puis on t'a plus revu, là. C'est après ça, on t'a plus jamais revu. C'est lui, il t'a pris, il t'a bercé, il voulait faire les nuits, il voulait juste s'occuper de moi. Fait que j'ai vraiment été très, très aimée.
Ce qui est génial.
Puis mes parents, le punch, mes parents sont encore ensemble.
C'est malade.
Parce qu'ils ont eu d'autres enfants. Ben, ils ont eu mes deux frères dans le début vingtaine. Puis ils s'aiment encore beaucoup. Puis là, on est toutes parties de la maison. Puis c'est vraiment, je pense, c'est à la vie, à la mort. S'ils décident de se laisser après trois enfants, une pandémie. Puis là, ils vont comme, oh, on est tannés. Je serais comme.
Deux référendums perdus.
Non, non, mais ils s'aiment encore beaucoup. Puis c'est des grands complices. Puis tu sais, c'est ça, ça met beaucoup de pression, je pense, même dans la vie de. Tu sais, début vingtaine, j'étais comme, comment je vais être capable d'accoter cet amour?
Ça, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est un sujet.
Cet amour-là.
Qui me fascine.
Ouais.
Parce que moi, j'ai le modèle que j'ai eu. Ah, j'ai oui. pas eu peur d'être parent parce que je peux pas faire pire.
Ouais, c'est ça.
Mais par contre, j'ai beaucoup d'amis qui ont des grands modèles. C'est souvent ceux qui ont plus de pression.
Mais ça m'énerve. Il y a souvent des gars de même, là. Oh, prendre une gorgée de café, mais ça, là.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a des hommes qui ont des parents très traditionnels, que ça fait genre 60 ans qu'ils sont ensemble, mais ils vont idéaliser ça en faisant « Ma mère, c'est une sainte. Mon père, il a toujours aimé ma mère. Puis moi, je recherche ça dans la vie. » Alors que moi, j'étais entourée de couples. Fait que c'est sûr que je suis une fille de couple dans la vie, mais je sais qu'un couple, c'est des hauts, puis des bas, puis des pardons, puis on se retrouve. Fait que je sais que je suis faite, que c'est dans mon ADN d'être en couple tout le temps, mais parce que je l'ai tellement vu, j'ai tellement eu ce modèle-là, puis même pas juste de mes parents, mais de mes grands-parents. Tu sais, mon grand-père qui est mort dans le lit de ma grand-mère, tu sais. Fait que, mais j'idéalise pas ça comme... Ah, oh, wow, c'est... C'est un magnifique modèle. Il faut absolument que je reste 50 ans avec mon chum.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois que les femmes, vous avez accès à plus d'intimité.
Oui.
De votre mère et de votre père. Vous connaissez plus de chicanes, plus de... Les hommes, nous.
Mais les hommes, on a plus hommes... Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit les hommes. Parce que les hommes, vous voulez souvent voir votre mère comme une sainte qui n'a jamais fait l'amour puis qui s'est sacrifiée pour ses enfants. Mais si tu allais au creux, au fond de l'histoire de ta mère, tu ferais comme, est-ce qu'elle a vécu des affaires puis que ça n'a pas été facile des fois, mais qu'elle a fermé sa gueule.
Ouais.
Puis tu sais, puis...
Les femmes, vous avez accès à ça.
Elle a traversé ça pour nous, puis pour sauver la famille, puis pour rester avec mon père, puis... C'est ça, une espèce de... Puis tu sais, l'espèce de truc, là, les hommes qui veulent pas savoir que leur mère a une sexualité, puis...
Leur père non plus, hein.
Ouais. Non, mais je pense que c'est important en vieillissant. Mais ça, tu vois, j'ai longtemps eu accès à ça parce que mes parents étaient plus jeunes, mais c'est important en vieillissant d'aller à la rencontre de ses parents comme homme et comme femme, de se rappeler que ta mère était une femme, que ton père était un homme. Puis tu sais, parce que c'est beau de... Puis qui existait avant que tu arrives.
Une joke géniale, parce qu'il me rejoint beaucoup. Si tu idéalises, en tant qu'homme, si tu idéalises ton père après l'âge de 30 ans, si tu le connais pas.
Ah oui, ben non, mais moi, je suis vraiment un papa... J'ai vraiment un papa formidable.
Oui, mais fait que je l'idéalise un peu. Faire, c'est le meilleur gars.
Oui, toute cette affaire-là. Ben, ceux qui idéalisent leur mère aussi. Mais
Puis pas tomber en amour, là, parce que oui.
Oui, 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 toute cette affaire-là. Mais tu vois, tout ça pour dire que j'ai pas la vie, là, de toute la vie, là.
Mais t'as-tu eu le droit à des hommes comme ça qui voulaient pas avoir des enfants parce que ça sera jamais comme mes parents? Qu'est-ce que c'est?
Oh, des amis, des fois, mais pas vraiment des chums. Non, c'est plus des discours de mes amis, des
qu'est-ce
fois. Des amis, souvent, qui ont le syndrome de la mère et la pute, là, qui cherchent comme la fille idéale, mais que genre... Tu sais qu'il va falloir qu'elle soit comme parfaite, mais pas trop cochonne.
Oh oui, il y a beaucoup d'hommes comme ça.
Mais
c'est un discours
que
de... Je peux pas fourrer ma blonde.
Oh.
Je fais l'amour à ma blonde, je fourre mes maîtresses. Ce qui est un discours qui est très, très, très répandu.
Ça, je sais, je peux pas croire que ça existe encore. Je peux pas croire que des fois, j'ai cette conversation-là avec des filles, puis que c'est comme... Ah, oh, mais il y a déjà des gars aussi, avec qui je suis jamais sortie, parce que ça se pourrait pas, mais qui font comme... Ah, oh, tu serais trop pour moi. Tu serais trop... Ça
oui.
m'insécuriserait beaucoup.
Mm-hmm.
Ou tu sais, des gars qui ont comme fait « Ah, toi, t'es trop à l'aise hein, sexuellement. » Je pense que ça me confronterait beaucoup. J'aurais tout le temps peur que tu me trompes. Je suis comme la fille la plus fidèle de la Terre.
Mais ça, c'est
j'aurais
souvent...
J'aurais peur que je te... Parce que toi, ton équation, c'est la fille, elle aime le sexe, fait qu'elle va aller fourrer ailleurs. Fait que là, trouve-toi une... C'est quoi le résultat, là? Contraire, je vais me trouver une fille qui aime pas trop le sexe pour être insatisfait pour toujours.
Et faut pas oublier, souvent tromper, c'est pas juste sexuel. Oui, c'est
mais
sexuel,
non, c'est pas tout
le
temps
mais
sexuel.
C'est aussi des fois une façon de se venger, des fois c'est une façon de se prouver quelque chose, des fois c'est plein de choses tromper.
Il y a beaucoup de oui, mais j'ai comme plus d'indulgence envers l'infidélité qu'avant parce que j'ai comme compris, ben là, à cause d'une psychologue qui fait des recherches qui s'appelle Esther Perel, là, c'est comme la gourou en ce moment des relations de couple. Là. Elle a un podcast, puis elle fait de la thérapie de couple, puis elle a écrit deux livres. Puis elle m'a vraiment fait remarquer, il y a deux choses qu'elle m'a fait remarquer, puis une autre psychologue dans la presse qui disait, quand quelqu'un est infidèle, c'est souvent quelqu'un qui a besoin d'un nouveau regard sur lui-même. Je dis lui-même, mais ça peut être une femme.
Non, c'est brillant.
C'est pas contre l'autre, souvent. Mais on le prend toujours comme une trahison, puis c'est contre l'autre parce que c'est faire abstraction de ce que ça va faire ressentir à l'autre. Puis ça, c'est violent. Mais, souvent, une infidélité, ça va être quelqu'un qui va tu vas faire, tu jettes sur moi un nouveau regard, quelque chose qui me fait du bien, puis qui me fait réaliser que je peux être, qui va m'idéaliser, puis qui va me sublimer, puis ça fait du bien. Puis... Ça fait moins mal de penser à ça que tu l'as fait contre moi.
C'est brillant que tu dises ça parce que la dame dit ça aussi. Ouais. Moi, à l'époque, ce que je voulais, c'est coucher avec des filles en relation amoureuse. Hostie que j'aimais ça. Et
c'est tu voulais scraper!
Non, je ne voulais pas scraper.
Okay.
C'est que c'est le meilleur.
Ah,
meilleur.
Parce que tu n'étais pas disponible.
Pas juste ça. C'est aussi c'était une manière de d'être choisi. Et
ben
aussi,
oui.
C'est une manière... de vivre une intimité, c'était très particulier. Et là où je voulais en venir, c'est deux choses. Premièrement, séduire une femme qui est déjà avec un autre homme, c'est facile parce que tu montres... C'est pas un défi, c'est même facile. Tout d'abord, parce que tout ce que tu viens de dire, tu jettes un nouveau regard.
Oui, oui.
Ah, t'es fantastique. Ah, ton chum, il te trouve pas drôle. Moi, tout ce que tu dis est hilarant.
Ah oui.
Tu sais, jeter un nouveau regard. Et aussi, c'est Chuck Klosterman qui disait ça, il disait... C'est toujours plus facile croiser quelqu'un qui est en couple parce que c'est des probabilités. Un célibataire a le choix de dizaines et des dizaines de milliers de gens.
Oui.
Tandis que quelqu'un en couple, il faut juste que tu sois meilleur qu'une personne.
Oui, c'est vrai.
c'est
vrai, puis c'est vraiment
maths.
Facile.
Merci, Chuck.
Oui. Ah, y a une lesbienne stand-up vraiment drôle que je me rappelle pas son nom.
Ils sont plusieurs.
Mais, Christy, comment qu'elle s'appelle? Mais,
américaine ou québécoise?
Américaine, mais qui était à Just for Laugh. À Montréal, puis elle a fait ce numéro-là, puis c'est rendu à genre 15 millions de views, puis elle fait comme « It's very easy for me to flirt with your girlfriend and make her feel special because you've set the bar so low. So every time I just ask the girl, hey, how are you doing? How was your day? They're like, oh my God! » Et comme, c'est tellement facile en tant que lesbienne, parce que les hommes, vous mettez la barre tellement en basse que c'est comme, j'ai juste à vous montrer un petit peu d'intérêt à une femme, puis comme, oh oui, prends-moi. Mais oui, c'est sûr. Mais tu vois, les hommes, c'est rare que les hommes font ça. Ça doit être pour ça que ça marchait bien pour toi. Parce que souvent,
c'est rare
quand
que
la femme...
À part ça, des hommes qui trippent sur des filles en couple, il y en a plein.
C'est ça. Mais oui, mais
on
les
est plein.
Gars,
on est un gros
gars,
groupe.
Les gars s'essayent moins sur une fille en couple.
Au tabarnak, non.
Ah, moi, je trouve que
ben,
oui.
Ben, les DM de ma blonde
disent
le contraire!
Oh my God, hein?
C'est blague.
Ouais, non, peut-être. Mais c'est sûr qu'une fille en couple depuis longtemps...
Il y a de quoi de
besoin d'un peu de valorisant.
Il y a souvent...
Ah, oh, des confidences!
Il y a de quoi de
la personne doit être exceptionnelle avec une autre personne. Si elle était puis elle est bien, puis il y a de quoi de charmant.
Oui, mais je trouvais, mais justement, je pense même qu'on en avait parlé à couple ouvert.
Il y a combien de gens qui font, ben là, surtout chez vous, si à 30 ans, est ou il est tout seul, flag.
Mais oui, mais sans joke, on en a parlé à couple ouvert quand je suis venue, mais c'était les filles qui capotent sur les gars en couple parce que. Et il est tout seté, il est comme parfait, il a pas peur de s'engager, il est en couple, puis que toi, t'avais fait la joke, il est propre, il est toiletté. Sa vie est comme plus setée, il est stable émotivement, il reçoit de l'amour, il fait l'amour, il est pas comme le célibataire en cavale. Est-ce que je vais être capable de domestiquer ce célibataire en cavale? Mais tu sais, c'est parce que c'est tellement un piège. Un piège. Là, tu sais, j'ai des amis qui tombent en amour. Tu sais, quand tu tombes en amour avec un gars qui est en couple, tu sais, tu restes toujours l'oiseau de malheur, je trouve. Parce que tu vas toujours être la personne qui a comme scrappé sa dernière relation. Fait que tu gardes en tête, est-ce qu'il regrette? Est-ce que j'étais un rebound? Est-ce que ça va redurer? Ou il va faire comme, ah non, je suis libre. Puis il est vraiment, autant homme que femme, je trouve que ça part, à moins d'une grande histoire d'amour, là, même que ça m'est déjà arrivé, là. De tomber en amour, être en couple, que l'autre personne soit en couple, puis là, on crisse tout à terre, puis on recommence. Mais, hey, mais c'est parce que tu fais de la peine à quelqu'un d'autre, puis là, il y a comme de la gestion de l'ex qui apprend. C'est tellement lourd émotivement. Pour moi, il faut vraiment que ce soit une grande histoire d'amour pour faire comme, hey, on crisse tout là, puis je suis vraiment plus heureuse avec l'autre personne, puis.
Ou des fois, c'est une histoire de sexe.
Oh, des fois, c'est une histoire de
sexe. Très agréable.
Très agréable.
Arrête le couple, continue le couple. Il y a aussi...
Oui, mais c'est sûr que la fille disait dans la presse, elle disait, l'infidélité n'existe pas parce que les gens ne tiennent pas à leur couple. L'infidélité existe parce que, justement, les gens tiennent tellement à leur couple qu'ils ne veulent pas se séparer.
Elle dit,
sinon, en ce moment, on verrait un taux de divorce exponentiel, mais ce n'est pas ça qui arrive. On voit qu'il y a de l'infidélité, mais... que les gens ont besoin parfois de vivre autre chose, mais de revenir, mais qui tiennent à leur couple et qui tiennent à leur relation. Mais tu sais, je trouve qu'on n'est juste pas outillé psychologiquement pour vivre. On surréagit tellement à ça. Parce que ça brise des familles, ça brise des couples. Ça fait y a même des gens qui vivent du stress post-traumatique après s'être fait tromper.
C'est horrible ce que je veux dire, mais donc ils meurent.
Il y en a qui meurent.
Dans les féminicides, il y a des hommes qui font « Oh mon Dieu! » qui trompent. Tu sais, il y a une histoire horrible d'un homme qui... Il avait une maîtresse.
Ben oui.
Puis il tombe en amour avec sa maîtresse. Il dit « Ben, si je tue ma femme et ma famille, je vais pas être la fille. »
Écoute, je les ai toutes écoutées, là, les podcasts de Victoria.
Non, mais ça, c'est l'extrême, mais ça existe.
Ah, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y a tout le temps, dans les hommes qui tuent leur femme, là, il y a souvent problème d'argent, nouvelle maîtresse. Ouais. Puis il y a comme un switch, genre, je vais tout faire effacer ma vie d'avant, je vais repartir à neuf. Mais c'est comme, mais à quel point ton cerveau, il est narcissique pour penser... que tu vas pouvoir passer au travers de ça puis ne pas te faire pogner puis de pouvoir avoir accès à une nouvelle vie.
Bien vivre avec ça.
Mais même, mon Dieu...
ta maîtresse sortir avec un meurtrier, d'un assassin, ça n'a pas de sens.
C'est arrivé au Québec en plus parce que là, j'ai plein de podcasts de true crime qui me pop en tête mais qui sont américains comme Scott Peterson puis tout. Mais il y a aussi, tu sais, là, à Joliette, là, Benoît Cardinal, c'est exactement ça. Il tombe en amour avec une jeune fille puis il s'est dit, je vais faire disparaître ma femme. C'est loin, on a parti de l'infidélité, qu'on n'est pas outillé pour vivre ça, mais...
Mais la preuve qu'on n'est pas outillé, une raison d'assassinat.
C'est une raison d'assassinat, vraiment. Mais toute l'affaire des féminicides aussi, même quand il n'y a même pas d'infidélité, il y a une espèce de... Il y a comme... Tu penses à ce que ton conjoint, ta conjointe va un jour faire l'amour avec quelqu'un d'autre, puis ton cerveau n'est même pas capable de computer ça. Puis la mort est la seule solution. Ouais. Faut que je te tue. C'est vraiment dur de comprendre ça. Il y a des affaires ces temps-ci que j'essaie de comprendre. Là. Comme on parlait de violence, j'étais comme... Mais juste tantôt, quand on parlait des hommes qui aiment les femmes plus jeunes, puis l'extrême de ça, c'est la prostitution juvénile. Mm-hmm. Puis qu'à quel point, dans le journal, il disait... Dans le journal, il disait... J'ai l'air d'avoir ça en 8 ans. Dans le journal, ils ont dit... l'enquêteur, il disait à la journaliste de la presse, il a dit, il faut juste se rendre à l'évidence, il y a trop de monde qui aime ça voir des enfants se faire violer.
C'est violent, mais tous ceux qui enquêtent là-dessus ont le même discours.
Mais c'est dur de comprendre parce que bizarrement, quand j'écoute plein d'affaires de true crime puis tout, j'essaie de voir l'humanité du monstre.
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de la culture pop qui est basée sur la pédophilie. Là.
Oui, vraiment.
Britney Spears, c'est un trip pédophile.
Fait que je pense aussi qu'il y a eu un problème. Il y a vraiment eu un problème dans l'épanouissement de la personne. Qu'à un moment donné, ça a stoppé puis ça a fait, moi, je vais aimer les filles comme ça. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'il y a eu un... C'est sûr que ça vient d'un traumatisme de l'enfance, de l'adolescence.
Oui, mais
ça peut pas juste être... pour moi, c'est zéro une orientation. Là, mais
mon
genre,
contre-argument à ça, c'est vrai à ce que ça prend un traumatisme, oui. Mais il y a bien des gens traumatisés parce que tout ce qui est en lien avec la pédophilie dans la culture populaire
est
très populaire.
Et tout est exacerbé de toute façon depuis qu'il y a l'Internet, mm-hmm. parce que ces gens-là se sont retrouvés. Mais j'essaie vraiment, c'est vraiment fucked up, là, parce que j'essaie de me dire, mais c'est quoi la solution? Il faut que ces gens-là puissent pouvoir parler à quelqu'un, mais c'est comme impossible. Imagine, enfin... là, t'as un trouble, là. T'es attirant vers les enfants. Mm-hmm. Toc, 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 psychologue. Ouais, il y a comme une affaire...
Puis aussi, t'as de la fuite. C'est pas moué, pas moué, pas moué. C'est pas vrai, je niaise, c'est pas vraiment ça. Mais oui. Non.
Oui, vraiment. Mais c'est vraiment.
Je pense qu'il y a
vraiment...
très peu de pédophiles qui se disent je suis un pédophile.
Je pense qu'il y a beaucoup. On n'en parle jamais, mais il y a un gros truc de cycle de la violence. Je suis vraiment là-dessus, c'est ancien. J'essaie de comprendre le cycle de la violence. C'est souvent des gens qui ont été.
Les prêtres pédophiles, c'est un grand phénomène. C'est que la plupart des prêtres pédophiles ont été violés par des prêtres, sont devenus prêtres, puis ont violé d'autres enfants. Puis c'est un cercle qui dure depuis des décennies.
C'est un cercle vicieux. Puis tu sais, Isabelle Richer a fait un podcast en ce moment, puis ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle
est au palais
de justice, puis elle dit je vois des victimes, je les vois 10 ans plus tard comme bourreaux. Il y a un cycle de la violence, puis c'est sûr que dans tous les hommes qui agressent des femmes ou qui sont pédophiles, il y a un gros pourcentage là-dedans de gens qui ont été agressés dans leur enfance. Fait que faut comprendre l'origine pour faire comment qu'on va arrêter ça? Comment qu'on peut prévenir ça? Parce qu'on peut pas, là, toutes les castrer. Doc Mayou, il y a des super solutions, des fois.
Ah ouais! Super!
Mais ça peut pas être ça. Hey, Doc Mayou. On peut-tu faire un autre...
On va pas encourager le Doc Mayou.
On parlait des sociopathes, mais j'essaie vraiment de comprendre en ce moment qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme que sa seule solution, c'est de tuer sa femme. Puis tu sais, j'apprends beaucoup. Il y a vraiment un truc de... Parce que souvent, c'est des femmes qui ont même pas été victimes de violences physiques. Puis ça passe genre violence psychologique à meurtre.
Je savais pas ça. C'est
surprenant. J'ai lu ça dans le devoir. J'ai lu ça dans le journal.
Non, mais c'est intéressant. C'est fascinant.
C'est vraiment fascinant. Mais non, j'essaie vraiment de comprendre. Puis c'est tout le temps les mêmes steps. Hein. C'est souvent des pervers narcissiques qui font du love bombing au début. T'es tout pour moi. On déménage ça ensemble. On se marie dessus rapidement. Puis là, t'es comme dans une espèce de bulle. Comme c'est-tu trop beau pour être vrai? Puis après ça, il y a la jalousie qui s'installe, le contrôle, l'isolement. Puis de la violence répétée. Puis c'est ça, là, celles qui vont dans les refuges, ils vont comme 4-5 fois avant de se faire tuer. Il y a vraiment quelque chose. Puis ouais, parce que la psychologue, elle disait, là, l'étape 6 et 7, ça, c'est ça pendant des années, là, 6-7, refuge, je reviens, culpabilité envers les enfants. C'est vraiment un cauchemar monumental, mais c'est vraiment un problème de société. Mais j'essaie vraiment là, de comprendre comment avoir une espèce d'empathie envers... toutes les femmes qui vivent de la violence, puis l'espèce d'empathie envers... C'est quoi la misère, le malaise masculin qui est tellement profond?
C'est brillant que tu dises ça, parce que je crois que c'est essentiel pour régler le problème. Parce que le but ultime, c'est pas de punir les hommes, c'est de prévenir les féminicides.
Ben oui, absolument!
Et pour prévenir les féminicides, il faut avoir de l'empathie pour ceux qui ont... je trouve pas le mot, mais qui risquent de tuer.
Ben oui!
C'est une manière... malheureusement, c'est très... Ça semble contre-productif, mais ça semble contradictoire. Ouais. Ça prend beaucoup d'empathie pour prévenir la violence. Envers les victimes, mais aussi envers les bourreaux.
Il y a beaucoup de féministes en ce moment qui écrivent des livres pour les hommes, puis pour le malaise masculin. Puis Liz Plank avait d'en sortir un. Esther Perel va en sortir un bientôt là-dessus. David Goudreau qui a fait la lettre au petit gars. Ça fait une autre affaire. On peut en parler si tu veux.
On va en parler si tu veux, mais c'est pas prendre en pitié. Puis aussi... L'empathie, c'est pas prendre en pitié.
C'est pas prendre en pitié, mais savoir des modèles puis essayer de comprendre pourquoi ça arrive, parce que ça arrive tellement qu'il faut être capable de désamorcer une affaire puis de faire comment ça, il y a autant d'hommes malheureux puis que ça rend autant de femmes malheureuses. Parce que je pense que tout le monde a envie d'être en amour puis d'être dans une relation saine. Et pourquoi il y a des... Pourquoi pour beaucoup d'hommes, l'amour passe par le couple passe par le contrôle de l'autre? Est-ce qu'ils ont une grande insatisfaction dans leur vie professionnelle? Tu comprends ce que je veux dire? Professionnelle, sociale, ils n'ont pas atteint ce qui était supposé... Tu sais, toute la masculinité toxique.
Hey!
Je suis tellement pas ce que je pensais devenir. J'aime pas ma job. J'aime pas qui je suis. Mon rapport avec mes parents est fucked up. Fait que, tu sais, si tu rencontres quelqu'un, puis tu peux avoir le dessus sur quelque chose, tu sais. Puis si elle a peur, tout s'effondre. Oh my God! Fait qu'il faut se parler, en fait. Faut avoir comme un dialogue entre les hommes et les femmes.
C'est moi qui sonne. C'est toi qui sonne, c'est toujours ce qui
arrive. Juste au cas où c'est la garderie, c'est pas la garderie.
Oura! Mais je comprends ce que tu veux dire.
Oui.
C'est... Mais puis il faut trouver... C'est pour ça que c'est primordial d'investir pour protéger les femmes.
D'investir, puis d'investir dans la prévention, puis d'investir dans la santé mentale, parce que ça se peut pas que la solution, ce soit plus de refuge. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, il faut investir. Il faut investir là-dedans, puis il faut investir dans les refuges, puis dans
mais
un endroit
une
pour porter...
Ah
oui, ben, c'est sûr que pour avoir des ressources pour ces femmes-là, parce que ça peut être n'importe quelle femme, ça peut m'arriver.
Mm-hmm.
On sait même pas, là. Puis tu sais, mais qu'on travaille en amont en faisant... C'est quoi? Comment qu'on pourrait aider même ces couples-là? Tu sais, dans les beaux malaises, c'est un peu comme ça que Martin Matt l'a abordé, l'espèce de... Ils sont allés chercher de l'aide ensemble, puis que... Oh my God! Mais c'est sûr que c'était avec un esti de fou contrôlant, il dit, viens, on s'en va consulter, ça marche pas, là.
Très tough.
Mais, je sais pas, on n'est pas sortis du bois, mais là, à cause de la pandémie, on a pris conscience que ça n'avait pas de bon sens.
Mais plus on en parle, plus il y a des hommes qui peuvent se reconnaître. Plus on en parle, plus il y a des hommes qui peuvent reconnaître d'autres amis. Plus on en parle, plus on peut reconnaître les signes. Parce que, tu l'as mentionné, il y a l'isolement. C'est une des étapes.
Oui.
Si, plus on en parle, plus on voit les signes.
Oui.
Et ça peut être... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui peut le remarquer. Alors, c'est super important d'en parler. C'est super important de le médiatiser.
C'est difficile aussi. Moi, j'ai jamais...
Même si c'est fait un peu tout croche. Moi, je suis de l'école. Même si les choses sont faites un peu tout croche, c'est mieux que le silence.
C'est mieux. Oh, oui, vraiment. Mais des fois... Mais je pense que c'est dur pour l'entourage parce que c'est souvent des filles qui s'isolent puis qui ont tellement honte qu'ils n'en parlent pas. Puis
c'est gênant.
Puis ils vont parler tellement en bien de leur chum en faisant « Non, il est super pour justement pas que
mais
ça apparaisse. »
Mais surtout qui arrive souvent, mettons... En public, il y a un homme qui crie après sa blonde.
Ouais.
Un homme intervient. La fille va défendre son chum. « Fait, parlez de moi, je suis dans la guide! » Elle va défendre son homme.
Oui,
même
oui,
si,
vraiment.
Froidement, c'est quelqu'un qui te défend.
Oui, vraiment. Hey, mais c'est fou parce que je me rends compte qu'il y a plein d'affaires que je comprenais pas. Il y a tellement... Les vagues de dénonciation, on parle d'autres choses un peu, mais il y a vraiment...
Mais c'est lié.
J'ai tellement appris d'affaires que je savais pas, puis j'étais comme, je peux pas croire que je savais pas ça. À mon âge, parce que j'ai 108 ans. Mais tu sais, une espèce de... juste le terme « gaslight », là. J'ai appris ça, genre, l'année passée. Puis là, ça a été un espèce de trigger de... Ah, oh, quand j'ai vécu ça, c'était ça. Quand j'ai vécu ça, c'était ça. Quand la personne... Mais quand t'as pas l'outil, là, quand t'as pas le... Hey, c'est de la manipulation, ce que tu fais là. Ce que t'es en train de manipuler. Si tu l'as pas, c'était pas le mot, t'as jamais eu l'exemple, c'est personne qui te l'a dit, tu peux pas réagir, puis tu le prends sur toi, puis là, t'es comme dans la honte, puis...
Et pour ceux qui savent pas dire gaslighting, dis-moi si je me trompe, c'est quand tu exprimes une situation à l'autre, et l'autre personne fait non.
C'est ta faute.
C'est ta faute, ce que tu m'expliques, au fond, c'est de ta faute.
Oui.
Alors tu te fais tout le temps, toujours remettre en question tes sentiments et tes observations.
Oui.
Alors tu ne te fais plus confiance et t'es perdu.
Oui, parce que tu penses que c'est toi.
C'est un étourdissement.
Oui, c'est parce qu'au lieu de dire...
Ah, t'as pas
tort. Au lieu de dire, ah, ben oui, c'est vrai, mm-hmm. J'ai fait ça, ça a dû te faire réagir comme ça, c'est comme, t'es tellement sensible. En tout cas, on peut rien dire, tu fais toujours ça, t'es tout le temps de même. Ah, j'ai jamais vécu ça sauf avec toi. C'est des affaires comme ça que tu fais comme, OK, ouais, je suis trop sensible. Tu le prends sur toi, puis tu te poses pas de questions. Puis, vous savez, qu'est-ce que je m'en allais avec ça?
Avec
il y a le gaslighting, mais il y a l'espèce aussi de... Ah, tu vois, la violence réactionnelle, c'est quelque chose que je connaissais même pas. Tu sais, c'est quand la personne, quand les gars abusifs, ils font quelque chose de vraiment violent, puis que l'autre, elle répond. Puis là, il y a des femmes qui répondent de façon violente, puis après ça, c'est comme, ah, t'es tellement violente. T'as-tu vu ce que t'as fait? Tu m'as poussé.
Mais ça, c'est la technique. Les hommes, on apprend ça en faisant du sport.
Ouais.
Au hockey, le truc, c'est toujours le deuxième coup qui est puni. Quand tu donnes un petit coup, tu reçois un coup, l'arbitre va le deuxième coup, puis tu fais « Hey! »
C'est pas moi.
Tu peux créer ça dans ta relation amoureuse.
Oui.
Mais c'est une vraie...
Mais toi, tu vois pas ça quand tu joues au hockey, tu peux pas voir un peu... Tu vois pas la personnalité des gars... ressortir fois mille. Tu sais, quand tu fais un sport avec quelqu'un,
c'est pour ça que c'est génial.
Toi, t'es tout le temps la victime. Ouais. Toi, t'es un peu violent, mais par en dessous. Toi, tu blâmes. Moi, c'est fou.
C'est pour ça que je trouve qu'on a un avantage. Il y a tellement d'avantages. Je connais très peu de choses sur les femmes. Je connais beaucoup plus sur les hommes.
OK.
Il y a tellement d'avantages d'être un homme.
Ben oui,
parce qu'on passe tellement plus de temps que nous
quoi,
autres.
C'est quoi, Thomas? Oh mon Dieu, je suis tout nu.
C'était tout nu. Les incels trip. Les incels capotent.
Mais je suis en dentelle noire. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Ramenez-moi mon état d'objet sexuel. Je ne vaux que ça. Je suis une femme. C'est ça qui se passe. Mais
c'est un avantage, faire autant de sport entre hommes.
C'est un gros avantage. C'est un gros avantage, puis ça développe. C'est de la connexion, c'est des liens. Vous pouvez interagir les uns avec les autres.
Comprendre
vous
les comprendre. Autres. Le nombre de... Moi, quand j'ai souvent des femmes qui ont ce discours-là, le nombre de choses qu'on pourrait régler, c'est l'énergie qu'on mettait sur le sport, on le mettait ailleurs. Le nombre de choses que j'ai compris avec le sport.
Ah, ben oui,
j'ai compris...
Un million
d'affaires. La politique, j'ai compris. L'économie grâce au sport.
Oui, parce que c'est des relations, c'est des connexions humaines. Donc là, tu peux faire des parallèles.
Voilà.
Oui, oui, vraiment.
Ce que tu comprends dans le sport, tu peux le transposer ailleurs.
Oui, mais vous avez une espèce de camaraderie malsaine, des fois. Moi, tu vois, tous mes chums, c'est toujours des gars qui faisaient des sports individuels. C'est ça, mon pattern.
Tu veux?
Oui, je pensais à ça dernièrement. J'ai fait...
Guillaume Magner aime ça, les sports individuels. Il aime pas jouer en équipe.
Il aime pas les sports, point. Il fait aucun sport.
Il a de la boxe,
Guillaume,
mais bref.
Il fait de la boxe, mais ça, il a commencé ça même après ma relation avec lui. Fait que, tu sais, il est très intellectuel. C'était un intello, là, Guillaume. Fait que tu sais, même que t'as un peu... Là, j'essaie de me rappeler si je l'ai déjà vu faire du sport, voyez.
Non, mais bref, tu trouves que...
Mais non, tu sais, mon chum, il joue au tennis, il fait du ski. Mon premier vrai chum avec qui je déménageais, lui, c'était, il faisait du mountain bike. Je pense que ça me confronte les gars qui font du sport d'équipe, parce que vous avez... La fratrie n'est jamais bien loin, ça crée vraiment... C'est quelque chose qui mérite. Je suis toujours souvent avec des gars qui, tu sais, que l'égalité homme-femme est extrêmement claire. Puis qui ont en fait, je suis souvent avec des gars qui ont une grande sensibilité féminine. Puis je trouve que les gars qui font du sport individuel, ils ont comme. Ils sont plus féministes que les gars qui font du sport de groupe.
Puis c'est pas une loi,
groupe,
là.
C'est pas même comme ça se
s'appelle. Il y a plein d'exceptions à la règle.
Oui, c'est une grosse généralité, mais tu sais. Il y a vraiment... je pense que j'aime bien les gars qui ont un côté, justement, là, très sensible, un peu plus... un côté féminin développé fort, très, très intello, des gars qui lisent. C'est sûr là, que je serais jamais qu'un joueur de hockey. Là. Mais tu sais, un gars qui joue au hockey, des fois, ça se peut. Là. Mm-hmm. Mais tu sais, il est comme... Puis je veux pas amplifier les préjugés envers les joueurs de hockey, mais... Je sais pas, peut-être... Mais c'est sûr que... Je sais pas, mais ça doit créer tellement... J'ai écouté un documentaire sur les Hells Angels hier. Puis on dirait que j'ai comme... Puis il y avait deux... C'était complètement fucked up parce que ça s'appelle La Preuve, c'est sur Club Illico. Puis il montre deux Hells Angels là-dedans. Ils sont tellement sympathiques. Ils sont tellement fins. Puis il parlait de pourquoi il était dans les Hells Angels. Puis c'était juste la force du clan. C'est comme ma gang, mon groupe. Puis le gars, il parlait genre de l'origine, il était comme moi, j'ai toujours fait des sports, j'avais toujours ma gang. Puis là, quand le cégep a fini, j'avais plus ma gang, j'avais plus mon groupe de gars, j'étais plus dans la radio étudiante. Puis il était comme, puis là, ce qui a comblé ça, c'est mon club de moto. J'étais comme, oh my God, c'est fort, cette affaire-là.
Oui, t'es puissant.
C'est puissant, puis ça peut être une force.
Grande
force,
ça inclut
puissante.
Tout. Ça inclut tout.
Oui, oui, oui. Je pense, si juste. Puis, tu sais, j'arrête pas de me rendre compte autour de moi aussi que c'est vraiment précieux pour les gars d'avoir des amis gars proches à qui tu peux te confier puis être émotif. Je pense que c'est juste ça, des fois, qui manque pour que la société ait un petit peu.
Mais je connais
mieux.
Pas. Moi, je connais pas de gars qui ont.
Qui aussi, ont.
Je connais pas d'amis gars qui ont pas de gars avec qui être émotif, mais je connais beaucoup, beaucoup de femmes qui ont pas d'amis, qui n'ont pas d'amis point avec qui être émotif.
Ah oui, bien, c'est sûr.
La
c'est
solitude,
comme,
je trouve qu'elle est beaucoup
que,
plus.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'est comme passé, je pense.
Moi,
c'est parce qu'on a mis les femmes. C'est parce qu'on a comme perdu quelque chose avec le féminisme. C'est ridicule. Mais c'est parce que je pense qu'avant, tu sais, quand toutes les femmes étaient mères au foyer, quand elles se retrouvaient entre femmes, il n'y avait pas de compétition. Parce que tout le monde était dans le bas de l'échelle. Ouais. Fait qu'il y avait comme une grande capacité à être émotive et à accueillir l'autre. Mais là, on est tellement dans une société qui met les femmes en compétition que c'est difficile de montrer sa vulnérabilité puis de montrer à l'autre fille puis souvent, c'est pas parfaite.
Ce que je trouve qui est dis-moi si tu es d'accord avec moi, ce qui est malheureux parfois sur Internet,
ouais.
c'est qu'il y a une sur-vulnérabilité.
Ben oui.
Bonjour, voici une photo de moi. Je vais te parler de mon agression sexuelle que j'ai eu à 11 ans. Je sais, waouh, c'est peut-être un peu trop de vulnérabilité.
Ben, c'est tellement de vulnérabilité. C'est vraiment... En ce moment, on est devant une espèce de... Mais... Ce qui est bon, en fait, des dénonciations puis tout ce qui s'est passé, c'est que ça a créé quand même une éducation. À force d'avoir des témoignages... Tu sais, juste avoir Laurence Jalbert, là, avant-hier, qui a déclaré « J'étais victime de violences mm-hmm. psychologiques. » Puis tu sais, elle a pas nommé la personne. Puis c'est comme... Personne sait c'est qui, mais elle fait comme « Ça peut m'arriver à moi, ça peut m'arriver à toi. Mm-hmm. » Puis tu sais, hey, Juliette Bélanger... L'as-tu reçu, Juliette Bélanger?
Non.
Mais c'est une étudiante en victimologie, puis elle fait beaucoup de posts sur Instagram, puis... Je trouve qu'elle fait tellement d'éducation sur c'est quoi la violence faite aux femmes, puis comment qu'on peut se déculpabiliser de ça, comment qu'on peut comment qu'on peut avoir de la compassion pour les victimes, comment qu'on peut ne pas prendre position parfois sur des débats. Mais je sens que grâce aux vagues de dénonciation des dernières années, là, puis je parle pas de la liste courriel, là, mais mettons le MeToo, là, puis tout. Je sens que grâce à ça, je vais avoir plus de mots pour protéger ma fille. C'est plus de mots. Je vais pouvoir plus lui dire, si tu vis ça, ben c'est de la violence réactionnelle. Mm-hmm. Si tu vis ça, c'est de la manipulation. Si tu vis ça, c'est du love bombing. Si tu vis ça, c'est un abus. Va pas faire ça, va pas faire ça. C'est pas de l'amour. Puis je vais être plus éduquée. Puis en plus, je pense qu'elle va avoir droit à une génération d'hommes qui va être justement plus éduqués puis qui va plus comprendre quand il essaie d'avoir le...
Mais c'est génial ce que tu dis. Un truc que j'ai
problématique.
Les spectacles ont recommencé.
Ouais.
Un truc que j'ai observé.
Oui.
Il y a beaucoup plus d'empathie pour les femmes dans les loges.
Oui!
Beaucoup plus d'amour. Beaucoup plus de respect. Ça, c'est tant mieux.
Mais tu sais, c'est tellement... Le son repart dans ma vie. Moi, il n'y a rien jamais que je dénoncerais. Puis ça ne veut pas dire qu'il ne m'est jamais rien arrivé.
Je comprends.
Mais j'ai jamais... Mais je sais, il n'y a rien là-dedans que je pense qui... Mais c'est-tu quoi, j'ai tellement fait d'aveuglement volontaire là, que quand il y a des, à chaque fois qu'il y a des vagues de dénonciation, je suis comme, hey, je suis tombée chanceuse, mais rien n'arrivait. Mais si là, je ferme mes yeux deux secondes, là, puis je fais vraiment comme un recap, il m'est arrivé 1 million d'affaires.
Comme quoi?
1 million d'affaires, mais tu sais, affaires. Puis je fais comme ça, c'était. Mais je l'ai. C'est parce que quand t'es une victime, tu veux tellement pas te victimiser, puis quand t'es une humoriste fille dans un milieu d'hommes, surtout il y a 10 ans, tu te dis, hey, moi, je suis capable d'en prendre. Ça me dérange pas ta joke. Hey, fucking sexiste, ta joke. Tu m'objectivises comme femme. Je m'en crisse. Parce que moi, je suis, I'm one of the boys. Je suis capable d'en prendre. Ça me dérange pas. Fais-les tes jokes. J'en ai vécu à l'école d'un humoriste qui m'a comme intimidée à la première session, là, devant tout le monde, devant tous les professeurs, qui a fait toutes les jokes sexuelles. Jamais personne qui a rien dit. Ça s'est jamais rendu au bureau de Louise, tu sais. Puis tu sais, j'y repense à ça, puis j'y repense à ça dernièrement en faisant, attends, là, il m'est jamais rien arrivé. Rien qui mérite, là, que j'appelle la presse.
Mm-hmm.
Mais plein d'affaires que j'ai vues aussi. Mais tu sais, mais toi puis moi, on a vu travailler avec la même personne qu'on a vu avoir des comportements problématiques mille fois. Ben,
Éric Salvaille. Éric Salvaille! Moi, je nomme le nom encore, Alice.
Mais c'est épouvantable ce que j'ai vécu avec lui, puis ça m'a pris genre 5 ans, faire comme... Ah, c'est pour ça que je me sentais comme... Quand je travaillais avec lui, là, ma mère puis mon chum, à chaque fois que je revenais à la maison, il me demandait, pourquoi tu le laisses te parler de même? J'étais comme, hey, il est né avec tout le monde! C'est pas grave, c'est one of the boys.
Il était très particulier, Éric, avec les femmes.
Ah oh, oui, il était vraiment particulier. Il me ramenait tout le temps...
T'es méchant?
Oh oui, c'était vraiment... Oui, puis en onde aussi, mais ouais. C'était de l'humour, c'était de l'humour.
C'était de la manipulation.
Sais, mais ça m'a pris genre 5 ans.
Moi, c'est particulier, Éric Salvaille, parce que j'ai grandi... Oui. Mon père, il a une formation de sexologue, il s'explique pourquoi il travaillait dans la maison pour jeunes femmes mères.
Ouais.
Alors, tous ces comportements-là, moi, j'ai su très tôt que c'était fucké. Su très tôt que cet homme-là était complètement fucké.
Mais moi, je m'attendais tellement...
Moi, c'est drôle que tu dises ça, parce que tu te fais répéter, puis c'est ta réalité. Que grâce à ces vagues de... C'est pour ça que je suis aussi... Je manque d'empathie parce que tous ces mots-là, tous ces termes-là, j'ai grandi avec ces termes-là. Moi, j'ai été élevé. On en discutait à la maison parce que c'est l'éducation de mon père. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant qu'il y ait ces discussions-là parce que t'as des gens qui apprennent prennent plus sur la sexualité.
Oui.
Et la violence qui vient avec. Tout ça pour dire que Eric, quand tu connais un peu ça, c'était un manipulateur textbook.
Oh oui, vraiment. Mais c'est
il
surtout
veut tout le temps dominer, se faire dominer, c'était terrible.
Oui, puis ce qui était pernicieux, c'était le. Ça a bien commencé. Nous deux, ils m'aimaient bien. Tu comprends? Fait que, tu sais. Puis là, Mané, ça. Ah, après ça, une petite joke. Après ça, une autre affaire. Après ça, ah, oh, je tombais une tarte.
Mais t'es misogyne, dans ce nom-là.
Tu sais, oui. Puis tu sais. Mais mon Dieu, tu sais. Mais c'est tellement des petites choses. Puis, tu sais, je veux dire, le discours ambiant, tout le temps, qu'on avait sur lui, c'est toujours. Il est de même avec tout le monde.
Non.
Peu importe.
Moi, le discours ambiant qu'il y avait sur lui, c'est un homme. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Mais ben, tant
parce
mieux.
Que je que, parce que je trouve que ça le défend.
Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord
parce que
avec
moi,
ça.
Le discours. Voilà.
Oui.
Mentionnons-le. Fuck it.
Oui.
Le discours ambiant avec Eric Salvaille, c'est Eric Salvaille, il travaille juste avec des jeunes parce qu'il a un comportement d'abuseur. Puis après, quand t'as un peu de maturité puis t'as un peu de place dans le milieu, tu t'extirpes de ça, puis il en engage un plus jeune. C'est pour ça que ses équipes sont tout le temps jeunes.
En fait, là, il y avait vraiment un contexte.
Puis c'est pour ça aussi que c'est fucké la relation avec Eric, parce qu'il a donné sa chance, leur chance à la télévision pour la première fois. Moi, à 25 ans, j'écrivais des textes pour un truc généraliste. Fait que moi, longtemps, je m'étais dit, hey, Eric me donnait une chance.
Oui!
Par contre, la raison pourquoi il donnait des chances, c'est que quand il a une chance, il contrôlait. Tenait par la laisse, puis tirait comme il voulait. Fait que c'est encore une fois de la manipulation.
Oui.
Puis ce qui est malheureux, c'est depuis qu'il est parti, il n'y en a plus de gens qui donnent des chances.
Il n'y a plus de gens qui me donnent des chances. On n'est plus nulle part, on n'est plus à TV. Mais c'est vrai, parce que si je me place dans le contexte.
Comment? C'est un autre débat, mais des jeunes derrière et devant les Kodak, si t'es pas en télé-réalité, il n'y en a pas. Qui est jeune à Radio-Canada? Qui est jeune?
Devant ou derrière?
Les deux. Qui est jeune?
Bien, il y a des recherchistes, là, qui ont moins de 30 ans.
Non, il n'y a pas de jeunes.
Non, je ne suis pas assez au courant.
Une blague que je dis souvent.
C'est que Jean-Philippe Autier, c'est le plus jeune de la relève?
Oui, non, que Jean-Philippe Autier, c'est la relève.
Okay.
Et selon Radio-Canada, la relève a...
Ouais.
Déjà, la relève, bref, la
oui,
relève
oui.
a 40 ans. La relève,
la relève
Canada,
a 40 ans.
40 ans.
Absolument. Oui, mais tu vois, c'est ça l'affaire.
Mais
c'est fucked up!
Je veux dire,
ben,
Julie,
je sais pas trop.
Ben oui, c'est fucked up.
Il y a
quand même 20 ans,
auteurs un peu partout, là.
Non. Non.
Ben, parce que j'ai pas checké les statistiques avant de venir ici. Mais ce que je peux dire,
Les vrais jeunes sont à la télé-réalité. Si tu fais pas de télé-réalité...
Non, mais ils sont sur le web aussi, là, le web.
Oui, parce qu'on va de place sur, à TV, on va de place. Les seuls jeunes qui sont à TV, ta mère ou ton père en a fait.
C'est parce que... Mais c'est quoi l'affaire? C'est un cercle vicieux parce qu'il y a personne qui regarde la télé.
Oh, personne.
Mais juste pour finir sur Eric Salvaille, c'est parce que je pense quand même pour une femme qui a confiance en elle puis qui est forte dans la vie, là.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est... Quand on me demande, mais pourquoi tu te laissais parler de même, mettons? Mais faut qu'on se remette à l'époque, parce que je suis une grand-mère, mais c'est... Eric, il était producteur de tout. Puis, tu sais, tu pouvais comme... Puis, tu sais, quand t'es rendu que tu travailles avec lui, puis que c'est rendu, puis que ça avait vraiment bien commencé, puis à un moment donné, ça s'est un peu... Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile par après, mais je voulais pas être dans une affaire de « Hey! » Non, tu me parleras pas comme ça. Premièrement, ça serait reviré contre moi, puis on m'aurait dit « Calme tes nerfs, t'es qui toi? » Mais en plus, il était producteur de genre 8 talk shows. Je dis n'importe quoi, j'extrapole, mm-hmm. mais il y avait 8 talk shows, il était à la radio, il était à la TV... Tu veux pas créer un conflit? Tu veux pas être la personne qui crée de la merde, puis qu'après ça, ça se sache, mm-hmm. puis après ça, qu'on se dise, elle a du trouble, même si, mettons. Fait que. Puis, à ce moment-là, je pense que j'avais même pas encore. J'avais pas mon goût en production pour les Simone, fait que je suis encore dans une espèce de. Suis-je une autrice? Suis-je une humoriste? Est-ce que je reste dans l'espace médiatique ou je me retire? Ou, fait qu'il y avait. J'étais dans. Fait que, tu sais, je fais comme tabarouette, il est bon en crise parce qu'il y a. Était capable de déterminer cet état de vulnérabilité-là que je connaissais même pas de moi-même.
Mais moi, j'ai un message pour ceux qui nous écoutent.
Oui.
Si tu travailles dans le show business, puis un gars fucked up, puis qui est dans la même situation, tiens-toi debout. Premièrement, la part des gens qui sont fucked up, ils ont des projets très mauvais. Parce qu'on regarde les projets d'Éric Salvaille, t'as tout très, très mauvais. Parce que c'est ça qui est fucked up de lui. Il fait comme, ah, oh, d'un coup, je pourrais pas faire les échanges. C'est son show, les échangistes. Mais c'est le pire show! Mais tu sais, il faudra pas les échangistes, c'est pas bon.
L'autre affaire aussi,
c'est que je pourrais pas jouer au ping-pong en mode Salvaille.
Maudit.
C'est aussi qui est fucked up avec les gens qui sont abuseurs. Leurs projets sont pas bons. Tout ce qu'ils sont, c'est manipulateurs.
Oui.
Ils ont pas réellement de talent. Les gens, mettons François Letourneau,
oui.
qui est, à mon avis, un des plus grands artistes du 21e
oui.
siècle.
Oui.
Un des gars les plus doux au monde, un des plus gentils.
Ah, ben oui.
C'est un des plus grands créateurs.
Oui. Pour vrai, là.
La plupart des. Tu sais, mettons, Gilbert, les gars là, juste pour rire, ça faisait un bout que c'était pas bon.
Les gags, c'est pas regardable. La plupart...
Oui, mais il y a des gens qui ont tellement...
Ils ont du pouvoir sur des projets pas bons.
Des narcissiques charismatiques.
Ils sont même pas charismatiques!
Ils sont comme... Ben oui, mais c'est parce que créent leur légende. Là. Gilbert Rozon, c'est un homme qui a créé sa légende.
Mm-hmm. Puis, là, puis tu passes 20 minutes après, puis tu fais « Ah, oh, c'est pas vrai! »
Moi, parce que at the end of the day, c'était pas comme... Ça avait pas eu tant de subventions. C'est juste un monsieur.
Il y a un truc, j'en ai parlé avec un ami, ça me fait rire. Dans les documentaires sur les sectes, il y a toujours la même séquence.
Oui.
T'as les gens qui ont marqué dans la secte qui disaient « Il était tellement charismatique. »
Ah,
coupé
je
à... Sais. T'as la personne la plus laide au monde qui a un
devant
discours incohérent.
Devant Keith Raniere! Keith Raniere, ce n'est que ça.
C'est...
Il est comme « Ah, oh, je me suis ouvert les veines pour lui. C'était l'homme de ma vie. Il me trompait avec 45 femmes, mais je l'aimais. Puis il était tellement charismatique. Tu vois, il est tout petit, il est laid, il a une bédaine, il a les yeux bleus. »
Pareil pour Rick Salvaire. Pareil pour Gilbert Rozon. Fait qu'il faut pas...
Mais Gilbert, il n'a rien fait, Thomas.
Je m'en fais plein d'affaires.
Il n'y a rien fait.
Non, il
y a. Non, faut que. Non.
Qui me poursuit. Non, je joue pas à ça. Je joue pas, je m'en fous.
Ouais.
J'ai fait mal à du monde que j'aime, je m'en fous.
Ouais.
Je ferai pas, je joue pas, je joue pas
blague,
à ça. même dans ses deals, les deals, juste pour étaient fucked up.
Oui.
Comment ils négociaient, c'est fucked up. Comment c'est. Tout ça pour dire que oui. Fait que si dans le show, je connais pas les autres milieux, je vais pas parler pour les autres milieux, mais pour ces milieux-ci,
oui.
Faut jamais oublier que la part des gens fucked up tient tout debout. Leurs projets sont pas si intéressants que ça. Et vu que t'es un artiste, tu peux créer ta propre. Tu peux créer tout.
C'est parce qu'on sent tellement
au début, là, pourquoi on devient artiste, c'est l'indépendance. On veut l'autonomie.
Oui.
Et dès qu'on rentre dans le milieu, on pense qu'on a besoin absolument de s'acoquiner aux autres. Pas nécessairement.
Non. Non, vraiment, mais c'est parce qu'on arrive souvent un peu plus jeune, avec une job très précaire. On veut faire nos preuves, on veut être aimé parce qu'on veut travailler. Puis ça nous positionne, c'est un peu étrange parce que c'est pas nécessairement par rapport au rendement, parce qu'au début, tu sais, il y a beaucoup de notre personnalité aussi. On est beaucoup engagé pour ça, pour notre personnalité, pour ce qu'on dégage. On peut-tu travailler en équipe? Admettons, je parle de la job d'auteur télé, là, tu sais. Ou même, tu sais, même pour les filles qui veulent être recherchistes, tu sors de communication, tu veux être animatrice, mais tu commences en étant recherchiste.
Je trouve ça
fou, c'est juste, on veut plaire. C'est comme au secondaire, là, quand tu...
Puis le but de faire de l'art, c'est pas de plaire, c'est de faire de l'art intéressant.
Oui, c'est ça. Ben oui, parce que vous si aussi, on voulait une job de façon...
Un truc aussi que j'ai observé en télévision, c'est que des fois, un truc que j'ai observé quand tu fais... Pour que je suis sorti de la télé, un truc que j'ai observé, c'est que tu veux tellement plaire que tu fais plus d'art.
Ah, absolument!
Que t'as même pas d'œuvre.
Mais
par contre, il y a une recherchiste en mode Salvaire qui t'aime. Mais je fais quoi avec ça?
C'est mon plus grand regret de stand-up. Parce que quand je faisais de la scène puis je faisais juste du stand-up, il y avait juste pour rire qui fuckait ma vie à chaque année. Parce que, avec du recul aujourd'hui, là, je ferais comme... J'aurais fait mon petit show, je me serais loué une salle. J'aurais jamais fait comme... Faut absolument que j'aie mon audition pour faire un gala. Faut absolument que je fasse un gala. Je me mettrais même plus cette pression-là.
J'aime faire la comparaison.
C'est quelque chose de super libre
qui
me ressemble.
Ce qui est plate avec les galas juste pour rire, c'est que ça prend... C'est un peu comme une canonisation des humoristes.
Oui!
Souvent, si t'as pas de gala...
C'est
lui, juste pour rire, on l'a canonisé. Lui est correct, lui est pas correct.
Mais je sens que c'est plus comme ça.
Mais voici ma comparaison. Avant, c'était comme ça avec Johnny Carson, le Tonight Show.
Oui.
Tu passais au Tonight Show.
Oui.
Si Johnny Carson faisait un point comme ça, tu devenais millionnaire, c'est pas une manière de parler.
Oui.
Maintenant, Johnny Carson, il n'y a plus d'influence. Ça a tout décoincé le stand-up.
Mm-hmm.
Larry David qui compte une histoire géniale. Larry David, qui est le créateur de Seinfeld, qui a aussi créé Curb Your Enthusiasm, qui, à mon avis, est un des plus grands génies comiques. Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas, qui nous écoutent.
Il est très bon.
Larry David, une fois, il y a le booker de Tonight Show qui est allé voir Larry David, qui a fait tout. Johnny, il t'aimerait pas. Puis Larry David a juste répondu, I don't give a shit! Larry David, il est devenu un des plus grands créatifs.
Ben oui.
Puis parce que l'influence de Johnny Carson s'est arrêtée. Fait que si juste pour rire, ça meurt de sa belle mort, ça va être bon pour la culture humoristique québécoise.
Non, mais ils ont plus... Il y a eu comme une nouvelle génération. Ils ont peut-être un petit
peu...
Jamais comme avant. Avant, c'était... Tu devais passer par là. Puis même quand ça avait même plus d'impact, mais il y avait comme une façon de fonctionner très, très, très marqué, puis tu pouvais pas déroger de ça. Puis quand j'y repense, je suis comme, c'était complètement ridicule. Les auditions, la Valkyrie. Après ça, si t'étais un petit peu moins bon, ben là, on te disait, va au ZooFest. Mais en même temps, puis finalement, c'est pas ça pantoute. Tu pouvais bien plus être libre au ZooFest.
Ou juste des affaires du genre, tu fais un gala, tu t'habilles propre.
T'habilles propre.
Pourquoi je change de linge?
Et rentre dans le thème. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses vraiment quelque chose. Ben, faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, j'ai fait des numéros bien trop génériques pour plaire, pour rentrer dans le carrousel des auditions, pour finalement travailler bien trop fort sur un 6 minutes. Tu sais, puis c'était... Ça n'avait pas de sens, tu sais. Avoir su, là, j'aurais fait mes petites affaires, j'aurais travaillé mon propre... Comme je faisais selon l'opinion comique, tu sais, c'était comme... Je faisais mes affaires, je prenais des sujets qui m'intéressaient, j'y allais, puis tu sais, je le faisais, puis il n'y avait pas de...
C'est René Lévesque.
Mais tu sais, il n'y avait pas. Puis tu sais, en y repensant, je fais comme. Des fois, quand on commence, on veut tellement pleurer, on veut tellement rentrer dans la machine que tu. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. On est des artistes justement pour déconstruire cette affaire-là. Mais, mais on est tellement vulnérable au début, puis quand on commence, puis qu'on manque d'expérience aussi, que tu te mets à faire des affaires en faisant c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Puis tu sais plus à un moment donné qui écouter, qui pas écouter.
Ben, à une époque.
Je veux pas mais à un moment donné,
mais vieillir, ça a des avantages. Non, mais à ton époque, c'était... Oui. Pas... T'étais obligé de faire un gala.
Ah, c'était très... Oui, mais c'était...
Plus aujourd'hui, parce
que... Ça avait même plus d'impact, mais on avait comme la vieille mentalité que Rachid Badouri, là. Tu vas gagner Révélation, puis... Pew! Bon, on dit ça, one-man show!
C'est grâce au numéro...
Faut juste que je m'assure que ma famille va bien.
On comprend ça. Mais mettons, c'est grâce au numéro, entre autres, de Sable dans le vagin de Mariana, à un gala...
Oui. Ah oui!
Qu'elle a explosé. Pareil pour Simon Gouache. Mais encore là, Simon Gouache, c'est-tu vraiment juste pour rire qu'il a fait exploser ou c'est Olivier Primeau en le partageant sur sa page Facebook?
Oui, bien, c'est un facteur de plein de petites choses. Parce que Mariana aussi, elle avait cartonné au show au Centre Bell. Elle avait eu comme une innovation.
Ouais, t'as
raison. C'était quoi ce show-là? Il y avait un drame?
Oui, c'était au show de Lac Mégantic. Entourage sont extraordinaires. Vive Entourage!
Mais dans le fond, la tragédie de Lac Mégantic.
Ça crée la tragédie de Mariana.
Oui, bon, effectivement, c'était comme, c'est qui cette petite fille-là qui arrive puis que tout le monde se lève? Puis après, il y a un effet, mais tu peux pas, parce qu'il n'y avait pas de sens. Puis tu sais, je repense pour moi-même en faisant, ça fait pas. Puis tu sais, j'en ai vu des humoristes faire ça, toutes concentrer leur énergie puis leur talent sur un gala que t'as pas, peut-être, des fois. Fait que tu sais, c'est complètement, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des petites choses aussi quand tu sors de l'école. C'est comme, dans le temps, c'était « Faut vraiment que t'ailles faire le Maurice, mais sinon, t'es pas un humoriste. » Puis... Mais en même temps, il y a des affaires comme « Mes plus beaux souvenirs, c'est le Saint-Cybe. »
Mais tu sais...
Le Saint-Cybe, c'était la vie.
Mathieu Dufour, que j'admire beaucoup et que j'essaie d'imiter sa manière de créer. Oui. Une des choses que
ah,
déjà...
Ah oui?
Bien sûr.
Toi?
Ouais.
Tu vas faire des stories, puis tout?
Non, mais exemple, une des choses que Mathieu Dufour a... une chose que Mathieu Dufour a déjà dit, c'est... Moi, je veux faire de l'humour, mais je veux pas être considéré comme humoriste parce que je comprends pas ce milieu-là, puis il m'énerve.
Ouais.
Fait que je veux faire à mon rythme. Si j'ai fait j'ai parti une soirée d'humour parce que j'ai fait Mathieu Dufour une soirée d'humour, puis il est juste motivé. C'est pour ça que j'ai parti ça. Quand je l'ai vu sur scène, parce que sur scène, je trouve qu'il est exceptionnel, Mathieu Dufour. Quand je l'ai vu sur scène, pas vraiment savoir ce qu'il va faire, puis improviser, puis voir, être en connexion avec la salle, j'ai assez limité ça. Mathieu Dufour a une grande influence sur qui je suis en tant qu'humoriste.
OK.
Et aussi, il se calisse des institutions.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui, exactement.
Ouais, là, il commence à les aimer, mais bref.
Mais c'est fou parce que j'ai tellement un esprit rebelle avec un syndrome de l'opposition qui apparaît rapidement. Fait que j'en reviens pas que je suis rentrée là-dedans à 26 ans, tu sais, puis à 27 ans en faisant.
Mais rien d'autre.
C'est ça. Peut-être que ça manquait de modèle, point.
Exemple, on regarde souvent l'Instagram de Mathieu Dufour, mais à l'époque, tu pouvais pas vendre.
Non.
Des salles de spectacle avec un compte de tapis ruche sur Instagram.
Quand je suis sortie, il n'y avait même pas d'Instagram. Je me rappelle, là, on partait nos fanpages Facebook, puis on partait.
Faire de l'argent sur Internet, c'était quasiment impossible.
C'était impossible. Ben, c'était impossible. Si c'était possible, je ne savais pas comment, du tout, du tout. Il fallait faire. Je ne sais même pas. Ben, parce qu'en plus, c'est parce que ce qui était bizarre, c'est qu'avant, là, avant les réseaux sociaux, quand tu voulais devenir un artiste, tu sais, tu commençais, puis tu faisais tes affaires, puis maintenant, tu prenais de l'expérience, t'apprenais, puis après ça, tout le monde te voyait à la télé. Puis toutes les gens qui t'aimaient pas, t'es voyaient jamais. Ils chialaient dans leur salon en faisant « Est-ce qu'il est pas bon, elle? Est-ce qu'il est pas bon, lui? Je l'aime pas, je comprends pas ce qu'il fait. » Puis toute la haine est restée en privé. Mais moi, je suis juste sortie au moment où la haine sortait, mais on savait pas comment dealer avec ça.
C'est génial que tu dises ça, parce
qu'on savait pas, on était comme « Ah ben, je ferai jamais rien, ma carrière est finie. » Moi, il y a un gars sur YouTube qui dit « Je l'ai la crise de merde. »
C'est drôle, je trouve ça génial que tu l'aies présenté comme ça, parce que Mounir et moi, on a une conversation de « Vu que nous, on est nés avec Internet,
ouais.
On est habitués à cette haine, puis on sait que c'est… »
T'es pas né avec Internet!
Pas mal.
Ben
moi, j'ai un ordi depuis genre 12 ans, dans ma chambre.
Fait que j'ai grandi. De 0 à 12, il y a rien, là.
Mais ça existait quand même.
Oui, je comprends. Ouais.
Ça pour dire que ça a toujours été là. Oui. Toujours, on a toujours été en contact avec ce langage-là.
Oui.
Et aussi, on comprend que c'est un monde parallèle. Oui. Quand un gars nous dit « il t'haït », il t'haït pas vraiment.
Non, non, non.
C'est un personnage oui. qui s'est créé, qui t'haït, puis il faut pas être oui. en avec ça. Pas votre génération.
Non. Ben moi, j'ai toujours quand même... Tu sais, j'ai eu Internet à 15 ans, là. Je suis pas si vieille que ça.
Non, mais, oui, mais c'est
pas. Mais non, mais c'est même pas l'Internet. C'est vraiment un truc de réseaux sociaux. Fait que tu sais, tu fais comme... Hey, parce que ce qui était bizarre... Enfin, moi, je suis vraiment arrivée dans le pire, finalement, parce que c'était la première vague de hate, de commentaires qui existait ever. Fait que t'avais rien pour me... On parlait même pas de la violence en ligne. C'était même pas comme un sujet à Pénélope le matin là, à la radio. Là. On parlait pas, là, hey, là, 70% des femmes en ligne se font attaquer. Il y avait aucun modèle, il y avait aucune sensibilisation à ça. Fait que c'était quasiment genre, tu te fais dire par quelqu'un que t'es de la crise de merde, t'es de la crise de merde. Mm-hmm. Je pense même encore à ce moment-là que les diffuseurs puis les producteurs, ils checkaient les commentaires en faisant « Hey, ça, cette personne-là, ça marchera pas parce qu'il y a trois personnes en ligne qui disent que c'est de la merde. » On les prenait au sérieux à ce moment-là parce qu'on l'avait jamais vécu. Puis là, tu fais « Ben, je commence. Laissez-moi être de la merde deux minutes. Tu peux être de la merde. Il faut que je sois de la merde. Si je suis super bonne là, il y a un problème. » Tu sais, c'est comme « Laissez-moi faire mes classes. » Puis tu sais, en plus, quand t'es une femme, c'est sûr que c'est 100 fois pire. Mais là, je sais pas c'est quoi le pire. Là, je suis tellement désensibilisée que je suis comme... C'est-tu normal que je sois si désensibilisée?
Oui, parce que tu sais que c'est faux.
Ouais, c'est ça.
Parce que voici...
À de la violence.
Une blague que je dis souvent, c'est... Quand un petit couple sur Internet se montre tout le temps en train de faire des affaires de petit couple, on les croit pas. On croit pas ce que c'est. On sait que c'est même pas pour vrai. On sait que c'est rien qu'une mise en scène.
Ouais.
La haine, c'est la même chose. Ouais. T'es pas vraiment en colère. C'est une mise en scène. Hier j'avais une blague sur les cuissards, puis il y a plein de... Il y a plein de gens qui m'ont dit que. Il y a un gars qui dit que tous ceux qui m'aiment méritent d'aller en enfer. Il pense pas vraiment. C'est juste une affaire qu'il a écrit sur Twitter à 16h30.
Mais on dirait que je le sais vraiment. Parce que tu sais, j'ai fait le.
Je pense pas qu'on est désensibilisé. On sait que c'est pas vrai. Un peu comme.
On sait que c'est pas vrai.
Quand tu écoutes Kill Bill, tu fais t'es désensibilisé. Je suis pas désensibilisé. Ouais. Je sais que Quentin Tarantino fait une mise en scène de la violence. Puis que c'est pas vraiment de la violence, mais c'est plus vraiment une reconstitution, puis il s'amuse. Pareil maintenant pour la haine.
Oui, mais les premières fois, là, en plus, c'était comme la blonde d'un humoriste m'avait comme détruit sur Twitter. Là. Je sortais de l'école. La blonde d'un humoriste.
Qui?
Je le dis pas.
Ah, tabarnak.
Je le dis pas, elle va me faire encore l'intimidation.
C'est dommage fucked up, ça.
Mais là.
Aussi, les estimes blondes humoristes. Il y a des blondes humoristes fucked up.
Puis en plus, là, j'étais genre à New York pendant un week-end, puis j'ai juste pensé à ça. Pendant tout le week-end. Tu sais, ma mère était comme, oh, regarde, on a un super week-end, mère-fille, à New York. J'étais comme, j'aurais jamais de carrière.
C'est hallucinant, ça.
C'est hilarant.
Oui, c'est là.
Mais ça n'a pas de bon sens.
Avec le recul, à New York, t'es à bas de fun.
Ben non, ça n'avait pas. Mais non, mais c'est parce que c'était. C'est parce que ça n'existait pas, puis là, ça venait d'exister. Je venais d'avoir une apparition télévisuelle, puis la réaction, c'était que publiquement, sur Twitter, la blonde d'un humoriste disait. Elle, c'est vraiment une estarte. C'était pas ça, mais c'était pire que ça. C'était genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Arc! En plus, c'était une affaire que j'avais même pas écrit le texte. Fait que, tu sais, au moins, j'aurais pu me dire, voyons, c'est pas moi qui. Mais là, en fait, c'est une première grande humiliation. Tu sais, c'est comme. Puis c'est comme, c'est vraiment traumatisant la première fois. Puis en plus, je sortais de l'école, fait que j'ai pas de recul. Tu sais, moi, ma famille vient pas du milieu artistique du tout, là. Tu sais, je suis comme la première. J'ai pas le background de... Il y avait comme une affaire de... Ah, ça va-tu être ça, ma vie? Je comprends que je peux polariser dans la vie, là, puis jongle très bien avec ça maintenant. Mais là, c'était comme... Mais Twitter venait d'arriver. Il y avait rien pour me réconforter puis me dire, c'est normal, parce que la violence en ligne est très présente, puis on en parle tous les jours. Puis tu sais, c'était comme une vérité. Elle avait dit une vérité. J'étais une grosse nounoune.
Puis elle avait une autorité. Elle doit connaître l'humour.
Elle doit la connaître. Là, c'est la blonde de choses. Puis c'est rendu une humoriste.
Génial. Hostie! Oh, la crise!
Fait que j'étais comme... Puis tu sais, j'étais une petite fille, là. Elle s'est rendue comme... Je sais pas, là.
Oh, mon Dieu!
Mais c'est pas... Hey, c'est pas grave.
C'est très grave. Mais c'est très grave. On va passer à autre chose, mais c'est très grave.
Elle a fait appeler plein d'autres mondes. Fait que c'est vraiment pas grave.
Juste des hommes, parce que c'est plus des femmes qui s'attaquent.
Je sais pas, là, je suis plus, hein.
Parce que moi, c'est jamais attaqué à moi.
Chris, il va falloir que je perde, Thomas. C'est ça qui est très. Ah, 10 minutes encore, hein, c'est bon. Tout est beau. Mais non, mais c'est. Je sais pas, je préfère des conférences là-dessus, là, la hate en ligne, le hate. Mais tu sais, il y a comme. Je sais pas trop. Je sais pas comment les jeunes vivent ça. Peut-être que les jeunes, en ce moment, ils vivent vraiment mieux.
Ça dépend. Je pense qu'il faut pas... C'est très particulier.
Dire les jeunes, c'est vieux dire ça.
Oui. Pas juste ça. Les jeunes, les vieux, les X, les Z. Je pense que c'est très dangereux. Les personnalités. Les gens ont des personnalités similaires. Moi, mettons Mounir, le maire de Laval, il a juste 23 ans. Il me ressemble en tabarnak. Même si moi, j'étais un gars de Rosemont qui a 32, puis lui, c'était un gars de Laval de 23. On se ressemble. Fait qu'on se connecte sur plein d'affaires. Ouais. C'est vraiment une question de personnalité. Je peux comprendre que pour certaines personnalités... Moi, ce que je trouve malheureux avec Internet, c'est que Internet, tout le monde doit aller sur Internet. C'est pas tout le monde qui devrait être sur Internet.
Non, vraiment pas.
Autant il y a des gens qui sont trop violents pour l'être. Il y en a d'autres qui sont trop sensibles. Mais, comment le monde est devenu, t'as pas le choix. Et c'est ce qui est malheureux parce que il y a aucun médium qui est fait pour tout le monde. Il y a des gens qui disent « je n'aime pas lire ». On accepte. Mais on peut pas accepter « je n'aime pas Internet ». Bonne chance, faire quoi
mon
que ce
chum,
soit.
Mon chum, il est très cohérent avec ça. Parce que j'ai des amis qui font comme...
Tu es déjà ton chum?
Comment?
Je suis ton chum?
Éric Bruno.
C'est extraordinaire.
Je sais, on dirait quasiment arrogant quand je dis le nom de mon chum. C'est comme « ah, oh, franchement, arrête de te vanter ». Mais il est cohérent parce que j'ai connu d'autres personnes dans mon entourage qui sont comme « les réseaux sociaux, c'est malsain, c'est de la merde, les gens qui sont là-dessus sont dégueulasses, gnagnagnagna ». Tu sais, des haters des réseaux sociaux.
Puis ils sont tout le temps
sur leur tout le temps sur leurs réseaux sociaux. Tu es tout le temps sur Facebook, tu es tout le temps sur Instagram, mais tu dis que c'est de la merde puis que les gens qui il y en a beaucoup de gens de même dans notre milieu. L'espèce de... C'est que les filles qui font ça sont superficielles. Les gars qui sont ça ou qui montrent trop. Mais c'est comme... Mais tu les regardes tous les jours. Tu les regardes tous les jours pour les juger. Tu vois, mon chum, lui, fait comme... C'est pas pour moi. Je vais me comparer. Je vais regarder. Peut-être que je vais juger. Ça me tente pas d'être cette personne-là. Je veux pas ce regard-là. Je veux pas savoir ce que les gens vont dire sur moi après une entrevue. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas sur Facebook. Grand bien m'en fasse. Ceci dit, des fois, ils volent mon cellulaire puis ils regardent vite, vite. Oh, là, là, là. Il a l'impression de faire un petit tour de manège. Oh, mon Dieu! Puis tu sais, tout de suite, après, il fait comme... C'est de la folie. C'est de la folie, cette affaire-là. C'est un vortex. Puis... Mais au moins, il fait comme... Puis tu sais, je fais comme, c'est merveilleux parce que, tu sais, à un moment donné, il s'est dit, ah, peut-être qu'en tant qu'acteur, à un moment donné, les producteurs vont regarder mon following, puis tu sais, à ce moment-là, mais je suis comme, tu peux pas faire ça parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui essaient de faire l'effet contraire, faire comme, je vais enlever mes applications de mon cellulaire, je vais m'enlever de Facebook, je vais garder juste un réseau social parce que ça mange mon temps, ça mange mon énergie, ça affecte ma santé mentale, ça affecte le regard que je porte sur moi, ça affecte mon estime. Tout le système de récompense qui est fucké. Fait que j'ai l'impression que tous les gens autour de moi sont en train d'essayer de reculer. Puis c'est comme s'ils commençaient à fumer. Je fais comme, commence pas à fumer. Tout le monde essaie d'arrêter. C'est pas le moment d'arrêter de fumer. Fait que je fais comme, c'est parfait. Puis en plus, je trouve que ça va être un exemple pour ma fille. Parce que quand t'as deux parents de même, tu dis à tes enfants, là, embarquez pas là-dessus, là, parce que j'aime mieux que t'aies pas de compte Facebook. Mais si tes enfants te voient sur Facebook, te voient sur Instagram, c'est sûr qu'ils vont vouloir répéter ça puis que t'auras pas d'argument. Mais si ma fille, elle a un chum... si ma fille, elle a un père qui est zéro là-dessus puis qui n'est pas dépendant de ça, ça va lui faire un vrai exemple à suivre en faisant « Mon père n'a pas jamais eu besoin de ça. Il travaille, il a sa passion. Il y a d'autres
enfants. » Il est reconnu. Je veux dire, c'est un homme qui...
Oui. Ben,
dès qu'il a un grand rôle masculin, Éric Bruno est...
Il est privilégié aussi de travailler. Peut-être que si à un moment donné, il ne travaillait plus du tout, puis que c'était comme vous avez zéro like, M. Bruno, on ne veut pas travailler avec vous. Vous n'avez pas assez de like. Là, il va peut-être faire bon Dieu.
C'est bon que ce soit pas sur les réseaux sociaux parce que le producteur qui dit ah, Éric a zéro like, il n'y a pas d'affaire sur le projet, tu ne veux pas travailler avec.
Tu ne veux pas travailler avec. Ça fait comme tu es quelqu'un de superficiel qui ne choisit pas les gens pour les bonnes raisons.
Bien sûr.
Et voilà.
Kim,
oui?
J'adore discuter avec toi.
J'adore ça. On est passé du coq à l'âne. Ouais, on a pas parlé de ma vie, c'est toi. Parfait.
Tu vas revenir.
Je vais revenir tellement.
Tu vas revenir.
Tout le temps, une fois aux trois mois, comme Philippe Audrey. J'aimerais ça venir aux trois mois. C'est presque thérapeutique en même temps.
Presque.
On fait ça.
Moi, je suis motivé. J'aime beaucoup ton art. J'aime beaucoup ta personnalité.
Merci. Let's go. Parfait.
Merci, Kim.
Merci.